Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal. Et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est parti, on est lancé. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Biomécanique. Nouveau lundi, nouveau podcast, on connaît l'histoire. Aujourd'hui avec Mathieu Toulza. Bonjour Mathieu.
Salut Jérôme.
Mathieu. On discutait un petit peu de savoir, j'aime bien faire comme ça directement la transition, tu vois, on discutait avant que je lance l'enregistrement, est-ce qu'il fallait qu'on soit un peu technique, est-ce qu'il fallait qu'on essaye de simplifier les choses. On va essayer de faire plaisir à tout le monde, comme d'habitude, donc on va parler de préférence motrice aujourd'hui, on va parler de morphoanatomie, on va parler de l'entraînement, hein, les purs et durs qui aiment la biomécanique, je pense qu'ils vont être servis, et voilà, et puis de toute façon quand il y aura des termes un peu compliqués ou qui semblent un peu spécifiques, on essaiera de les définir et puis de parler à tout le monde pour que tout ça devienne très simple, parce que des fois préférence motrice, le terme il peut faire un peu peur, tu vois.
Ça ne brûle pas, n'ayez pas peur, ça ne brûle pas.
Bon, c'est parfait. Je te laisse te présenter brièvement pour commencer, s'il te plaît.
Ok, Mathieu Toulza, je suis podologue sur la région, enfin dans la région parisienne. J'ai 42 ans. J'exerce en activité libérale, en consultation, on va dire classique d'un professionnel de santé. Et j'ai en parallèle une deuxième structure qui s'appelle Sport Posture Conseil que j'ai créée il y a de ça 2 ans également, qui grosso modo utilise les leviers de la morphoanatomie et des préférences motrices dont on va parler, de manière à essayer de profiler, j'aime pas ce terme-là, mais de travailler avec le sportif pour essayer de lui apporter un plus à la fois dans son entraînement, dans sa préparation et dans tout simplement pour performer. Et peut-être supplément, j'ai moi-même été sportif de haut niveau il y a une vingtaine d'années, ce qui peut expliquer mon appétence pour le sport en général, hein. Le sport de haut niveau c'est une niche, mais pour le sport en général et tout ce qui est la partie biomécanique qui me fascine depuis tout jeune. Voilà. Je sais pas si c'est bien résumé.
Si, c'est super. J'ai fait exprès, tu vois, de pas faire énormément de recherches sur tout ce qui est les préférences motrices. C'est pas un domaine que je maîtrise. J'adore la morphoanatomie. J'aime beaucoup la biomécanique. Déjà parce que c'est le nom du podcast et que non, je peux pas dire rien pas ça. Mais j'ai été très orienté sur ça vers mes débuts lorsque j'ai commencé à pratiquer l'ostéo et que je me suis intéressé à ces leviers, les leviers de force, la mécanique, comment ça fonctionne sur une activité, sur un sport, sur un mouvement. C'est intéressant. Les préférences motrices beaucoup moins et j'ai un petit peu hésité, je me suis dit est-ce que je creuse bien le sujet pour en savoir beaucoup ou est-ce que je me laisse de la place pour apprendre des trucs, pour apprendre plein de trucs, et je me suis dit c'est une meilleure idée dans le sens où ça paraît compliqué et je vais essayer de un peu me mettre et je vais être, tu vois, par obligation dans la position un peu du débutant sur les préférences motrices et je pense que ça sera plus intéressant parce que comme ça j'espère poser des questions et essayer de m'intéresser un petit peu comme un débutant ou quelqu'un qui saurait pas trop pourrait s'intéresser à ça.
Ok.
Est-ce que, je sais pas, on peut définir c'est quoi une préférence motrice? Est-ce qu'il pourrait y avoir une définition? Et après, je te demanderai autre chose.
Ok, ça marche. Écoute, les préférences motrices, hein, c'est grosso modo, c'est un ensemble ce sont des caractéristiques qui nous sont complètement individuelles. C'est-à-dire que chaque personne a une manière de bouger, et c'est essentiellement une préférence motrice. C'est essentiellement quelque chose qui découle d'une préférence d'équilibration de ton cerveau dans l'espace qui l'entoure. Grosso modo, pour faire simple, bouger, c'est toujours pareil. C'est essayer de créer un déséquilibre. On a besoin de créer un déséquilibre pour accepter le mouvement et de se mettre en action. Et pour créer ce déséquilibre, notre cerveau, il a depuis notre naissance, voire même durant les premières semaines de la vie intra-utérine, défini des préférences d'équilibration, c'est-à-dire soit il préfère se déséquilibrer dans l'espace qui est en avant de nous, soit il préfère le faire dans l'espace qui est en arrière de nous. Il préfère le faire à droite ou à gauche. Alors évidemment, il est capable de tout faire. C'est comme c'est un exemple classique qu'on reprend. On a deux mains, évidemment. Mais on en a une avec laquelle on a plus d'affinité, en fait. Et donc, quand on a besoin d'être efficace, de durer, de performer, et si notre environnement, c'est avant tout environnement dépendant, nous le permet, et qu'il n'y a pas de blessure ou de douleur de coach, de consigne de coach inverse, notre cerveau va aller chercher la préférence qui est la sienne, bah, pour pouvoir justement être efficace. Parce que son objectif premier à lui, c'est d'abord la survie. Et donc, en utilisant ses préférences, ça lui permet de durer plus longtemps et du coup, bah, potentiellement d'être plus performant dans la durée également. Voilà, donc on peut synthétiser un petit peu ça comme ça. Et après, il y a plein d'autres liens. Les préférences motrices, c'est un aspect de la donnée. Il y a également des préférences énergétiques, il y a des préférences cognitives, c'est-à-dire une manière de percevoir notre environnement, d'interpréter l'info qu'on en retire et de se décider. Et tout ça, en fait, on a certainement également des préférences hormonales, des préférences de fibres. Il y en a qui sont plutôt fibres lentes, d'autres fibres rapides. Et ça te permet de déterminer tout un profil de personnes ou de sportifs et d'adapter ton discours à cette personne en fonction des caractéristiques qui sont les siennes, en fait. Et du coup, quand tu travailles, quand ton but, c'est d'essayer d'individualiser la prise en charge de la personne, bah, les préférences motrices font vraiment sens parce que elles permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la personne. Et quand tu les annexes à la morphoanatomie dont on discutera après, bah pour le coup, ça ouvre encore plus de champs des possibles, si j'ose dire, parce que là, tu vas chercher à la fois le système nerveux, le cerveau, préférence motrice, et la structure, la morphoanatomie.
Et est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que dès la naissance, si on est capable de prévoir ou de prédire la morphoanatomie, qu'on est capable de dire, de donner donc les préférences motrices, peut-être bientôt dans un futur plus ou moins lointain, préférences hormonales, préférences énergétiques, etc. Donc pas loin de la naissance, en tout cas dans les premières années. Est-ce que ça voudrait dire que finalement on serait capable de dire cette personne-là, c'est ce sport qu'elle doit faire parce que, par exemple, préférence motrice sur le côté, plus fibre, je ne sais pas quoi, plus ceci, cela, ben ça, c'est les atouts d'un tennisman. Donc joue au tennis mon enfant.
Alors, je te dirais, certains vont bondir quand je vais dire ça. D'un côté, oui. D'un autre côté, il y aura toujours cette part d'incertitude parce que ce qui fait la performance d'un sportif, c'est bien sûr à la fois ses préférences, sa manière de fonctionner, mais c'est aussi son histoire, son vécu. Et ça va énormément influencer l'expression motrice qui sera la sienne, la perception qu'il aura de son sport et également la manière qu'il a de bouger, en fait. Parce que quand on bouge, par exemple, si je reprends l'exemple du tennis, si j'aime beaucoup Federer, sans m'en rendre compte, dans ma tête, mon cerveau, la motricité, le mouvement idéal du coup droit, c'est celui de Federer. Alors, c'est pas forcément adapté à ma motricité, donc il faudra peut-être qu'après je le nuance par rapport à mes préférences, mais j'aurais quand même tendance à l'utiliser. Donc, on aura des pistes d'action. Si on arrivait à déterminer ce que tu évoques dans un futur plus ou moins lointain, on aura des idées potentiellement d'où on pourra performer. C'est pas la préférence motrice qui fera la différence, parce que quelle que soit ta préférence, à partir du moment où tu sais l'utiliser, l'exploiter d'une bonne manière dans l'environnement qu'elle tient, tu peux être bon quelle que soit ta préférence. Mais pour cela, il faut d'abord la connaître. Ce qui fera, selon moi, peut-être le levier, c'est l'alliance avec la morphoanatomie. Pourquoi ? Parce que la morphoanatomie, c'est grosso modo la longueur des segments osseux et la longueur des muscles qui tapissent ces segments osseux. Et en fait, clairement, si t'es basketteur, je vais prendre un lieu commun, mais si t'es basketteur et que tu fais 1m85, ça veut pas dire que tu pourras pas être basketteur. Mais si tu veux être pivot à 1m85, ça va être compliqué. Il va falloir que t'aies une détente sèche énorme ou que t'arrives à exploiter ton jeu. Donc ça, clairement, la morphoanatomie fera la différence. Mais de là à te dire que systématiquement, en connaissant par exemple à 6-7 ans, admettons qu'on puisse prédire la morphoanate et les préférences motrices, je ne crois pas qu'on pourra quand même, l'humain a de ça qu'il est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est capable de faire vraiment plein de choses et c'est vraiment l'environnement dans lequel il évolue qu'il façonne aussi et avec lequel il va exprimer telle préférence ou telle autre. Et du coup, je ne pense pas qu'on pourra complètement être sûr, tout du moins, d'un profil qu'on aurait prédéterminé à l'avance. Je ne pense pas. Voilà. Mais après, on sait jamais. Hein. Je ne pense pas, car l'humain est vraiment complexe.
C'est-à-dire que tu pourrais influencer tes préférences motrices, c'est-à-dire que un degré de pourcentage.
Alors, en fait, quand tu as une préférence, c'est pas que tu vas l'influencer. Alors évidemment, tu peux travailler. Je reprends l'exemple des deux mains peut-être pour être plus simple pour tes auditeurs. Je sais pas si tu es droitier ou gaucher. Par exemple, si toi tu es droitier, moi je suis gaucher. Bon voilà, moi je suis gaucher. Si jamais demain moi je vis donc dans un environnement de droitier, puisque le monde est globalement fait de droitiers, hein, environ 90%. Donc quand tu es gaucher, bah tu es obligé quelque part de temps en temps d'aller chercher non pas ta faiblesse, mais ce qui n'est pas naturel pour toi. Donc depuis tout petit, tu as amélioré ta main droite, par exemple. exemple pour couper les ciseaux, pour conduire, pour faire plein de choses qui nécessitent pas forcément un mouvement très précis. Donc je suis capable d'utiliser ma main droite. Donc ça veut donc dire que j'utilise pas ma préférence, j'utilise autre chose. Mais maintenant, si j'ai besoin d'utiliser ma préférence, je vais toujours retourner vers ma main gauche en fait. Et donc pour revenir au sport, quelle que soit ta préférence en fait, si tu à partir du moment où tu la connais et qu'on t'explique comment tu fonctionnes, tout du moins qu'on te fait ressentir, parce que c'est avant tout ressentir, c'est pas, moi je vais pas te dire fais comme ci ou fais comme ça, je vais essayer de te le faire ressentir pour que toi tu sentes et surtout que ton système nerveux perçoive ce qui est bon ou mauvais pour lui. Une fois que t'as compris, en fait, ton corps va se positionner naturellement tout seul pour gérer l'information qui est la sienne, qu'il reçoit, pardon, de l'environnement qui est le sien, et du coup il va exprimer sa préférence. Voilà, un petit peu. C'est un peu abstrait, c'est pas évident à expliquer comme ça sans exemple, on va dire, visuel, mais c'est grosso modo, c'est ça.
C'est-à-dire que automatiquement, tu vas toujours avoir un côté qui naturellement sera plus facile pour toi, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas utiliser l'autre côté, que tu ne peux pas exceller, mais ça sera pas naturel. C'est-à-dire que
exactement.
C'est-à-dire que là t'es gaucher ou moi par exemple, bon, automatiquement j'écris la main droite et je vais écrire très bien. C'est-à-dire que je peux. Et d'ailleurs, être droitier est une préférence motrice à droite. On peut dire ça.
Voilà, disons que c'est une préférence. Alors, la main, c'est souvent associé à la, comment dirais-je, à la zone du langage au niveau cérébral. C'est-à-dire que la main, c'est pour toi la manière d'exprimer une émotion, une sensation. Et d'ailleurs, avant d'écrire, la manière qu'avait l'homme préhistorique de communiquer entre eux, en fait, c'était de faire des dessins, en fait. Donc, ils prenaient, on s'est rendu compte. Là, je fais une petite digression, mais on s'est rendu compte que déjà, à l'époque où ils dessinaient des dessins sur les murs, bon, on distinguait des gauchers et des droitiers. Donc, la main, c'est avant tout le prolongement d'une expression de quelque chose que tu souhaiterais communiquer. Et du coup, c'est une préférence motrice, mais c'est pas une préférence motrice au sens préférence de survie. Quand je te parle de préférence motrice, c'est avant tout pour lutter contre la gravité. Là, c'est une préférence d'expression, en fait. Donc, c'est plutôt la zone du langage. D'accord. Quand on parle de la main droite et de la main gauche. Si tu prends Nadal, il écrit, il signe, il fait tout de la main droite. Donc ça, c'est pour exprimer un mouvement ou une émotion. Par contre, il joue au tennis de la main gauche. Tu vois, c'est la seule chose qu'il fait de la main gauche.
Il a une préférence motrice à gauche, mais il a une préférence expressive à droite.
Exactement. C'est-à-dire que pour tenir sa raquette, on peut envisager, voilà, on peut le simplifier comme ça. C'est-à-dire que pour jouer au tennis, son cerveau, son système nerveux, parce que c'est plus large que le cerveau, hein, c'est le système nerveux globalement, gère mieux les paramètres quand il tient sa raquette du côté gauche que s'il la tenait du côté droit. Alors, je sais pas ce qu'il donne quand il tient la raquette du côté droit, je l'ai pas vu jouer de la main droite. En revanche, il fait tout de la main droite, sauf jouer au tennis. Et ça s'est fait naturellement. C'est pas son coach qui lui a dit, parce que Nadal, je crois, jusqu'à 12-13 ans, jouait des deux mains, un peu à la Fabrice Santoro. Et puis en évoluant de niveau, son oncle lui a dit à un moment, écoute, il va falloir que tu sélectionnes une main parce que t'auras pas le temps de t'organiser en jouant des deux mains. Et naturellement, il a été chercher sa main gauche. Il y a un reportage sur YouTube, si ça intéresse les auditeurs, où Nadal, enfin son oncle Tony Nadal, explique un petit peu ce phénomène-là. Donc, naturellement, il a été chercher sa main gauche, certainement parce que pour lui, dans son organisation motrice, dans son mode de fonctionnement, dans son schéma moteur, eh ben, c'était plus évident en tenant la raquette du côté gauche que du côté droit. Mais ça n'a pas changé, ça ne veut pas dire qu'il fait tout de la main gauche. Non, c'est juste qu'il joue au tennis de la main gauche. Voilà.
Pour revenir sur les dessins, ouais. Sur les murs, sur les hommes, chez les hommes préhistoriques, comment on a pu déterminer que ce dessin a été fait par un droitier et l'autre a été fait par un gaucher?
Écoute, c'est une très bonne question. En fait, il y a un livre qui s'appelle L'homme asymétrique. Ça a été écrit par Guy Azémar dans les années 60-70. C'était un médecin qui s'est un des premiers qui s'est intéressé justement à essayer de comprendre comment les gauchers pouvaient évoluer dans ce monde, sachant qu'à l'époque on avait moins de statistiques d'aujourd'hui. On pensait que les gauchers étaient, je crois, il me semble, de 5 ou 7% sur la population mondiale, ce qui est pas énorme. Et il a fait énormément de recherches pour essayer de comprendre cette histoire de latéralité au niveau cérébral. Et dans son bouquin, il parle et il dit qu'il y a eu des études. Alors, je t'avoue, j'ai oublié le nom de ceux qui avaient fait les recherches, les anthropologues, etc. Mais les gens pourront retrouver dans ce bouquin-là les explications. Ils ont vu, en fait, par rapport aux empreintes de main et au positionnement et la manière, t'as des gens qui sont spécialisés là-dedans, j'imagine, dans la manière qui avait été posée, tu sais, les empreintes de main pour faire le dessin ou pour faire le mouvement du dessin. Ils en ont déduit par rapport à la forme de la paume, la forme du pouce, que c'était plutôt une main gauche ou plutôt une main droite. Alors après, là, je te le simplifie, je te le caricature un petit peu. Mais dans ce bouquin, c'est très bien expliqué. C'est un bouquin qui a été écrit, alors peut-être un peu plus, L'homme asymétrique, c'est Guy Azémar.
Guillaume, exactement.
Voilà, il était médecin équipe de France d'escrime. Il a bossé à l'INSEF, je crois, jusqu'au début des années 2000. Il est décédé il y a peu de temps. Mais c'est un bouquin qui, certes, il est pas récent, mais qui est très intéressant. Et je te dis, moi-même étant gaucher, on n'a jamais trop su, en fait, hein, ce que je t'ai expliqué sur la zone du langage, c'est la plus grande hypothèse, une des plus grandes hypothèses qu'on a, mais on n'en est pas certain. C'est comme cette histoire d'hémisphère droit, hémisphère gauche. Alors, à droite, on trouve ci, à gauche, on trouve ça. De plus en plus.
Ouais, rationalité, créativité, c'est ça.
Exactement. Et de plus en plus, en fait, on se rend compte que, parfois, ces zones-là, elles sont à cheval sur les deux hémisphères. Donc, c'est pas aussi latéralisé qu'on aurait pu le penser il y a encore 10 ou 15 ans. Ça veut pas dire que ce n'est plus valable. Ça veut juste dire qu'il faut faire encore une fois attention quand tu fais des raccourcis et des généralités. De temps en temps, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, en fait, Guy Azéma avait émis cette hypothèse où il constatait que dans certains sports, notamment les sports d'opposition, donc lui, son dada, si j'ose dire, c'était l'escrime, il prend un exemple, une des finales dans les années 60 ou 70 des Jeux Olympiques, il me semble. Les 8 derniers finalistes, c'était 8 gauchers. Et il voyait vraiment que c'était une propension bien plus marquée que dans d'autres sports. Il a commencé à s'interroger et à essayer de comprendre. Et t'as un autre bouquin qui parle un petit peu de ça aussi, alors un peu moins, c'est Le gène du sport, qui a été écrit par David Epstein en 2013-2014, où pareil, ils ont fait tout un tas d'études et ils essayent de comprendre un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui ferait qu'un gaucheret serait plus à l'aise dans un sport d'opposition qu'un droitier. Alors ils vont chercher la prise d'information visuelle, ils vont chercher le stockage d'images, ils essayent de comprendre tout un tas de choses, tout ce qui peut se passer au niveau cérébral. Et en gros, voilà, on émet des hypothèses, encore une fois, sur 7 milliards d'individus, c'est dur de confirmer sur un large panel, mais les grandes hypothèses actuelles sont celles qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'effectivement, l'expression motrice de la main est plutôt annexée à la zone du langage. Donc, on peut en déduire que si tu es droitier, ta zone de langage serait plutôt située dans l'hémisphère gauche.
Comme un petit peu les yeux, le nerf optique, les deux nerfs optiques qui se croisent à un moment donné.
Exactement, oui.
Au niveau
tout à fait.
Voilà, c'est le
qui arrive en partie postérieure. Exactement, oui, tout à fait.
Postérieure, occipitale.
Ouais, exactement.
D'accord. Le gène du sport que j'en ai entendu parler pas mal et surtout par Rudy Koya qui en a parlé un petit peu, donc intéressant. Inné contre acquis. David Epstein.
Epstein, exactement.
À ne pas confondre avec, ce n'est pas le frère de Jeffrey. Epstein.
Non, oui, effectivement. Enfin, je ne sais pas, mais non, effectivement, faut pas se confondre. C'est pas tout à fait.
Non. C'est pas dans le même délire.
Non, là, pas vraiment, non.
Voilà, pour ceux qui ne savent pas, il t'apprend Epstein sur Netflix. Il y a un documentaire qui retrace.
Voilà, c'est pas de lui dont je parle. C'est de l'autre. C'est celui qui c'est un peu plus léger comme sujet. C'est peut-être un peu plus sportif, ouais.
Ok. Bon, on va revenir sur tout ça un petit peu. Hein. Gène du sport, ouais. Inné, acquis, nature, contre-culture. Hyper intéressant.
Ouais, c'est fascinant. Exactement, c'est fascinant. Ouais, je t'invite à lire. Il parle un peu de morphoanate, aussi de morphotype. Il parle évidemment de génétique, d'épigénétique. Alors, il faut mettre ce côté de un petit peu de race, c'est toujours délicat quand on parle de morphoanatomie ou d'ethnie ou de génétique, parce que on a toujours un peu peur d'aborder ces sujets. Mais dans ce cas-là,
de choses et
exactement. Et en fait,
de hiérarchiser sur qui est mieux que qui, et puis d'avoir un effet de supériorité.
Exactement. On en reparlera dans la morphotype, dans la morphoanatomie, où on expliquera bien qu'il n'y a pas de meilleure morphoanatomie. C'est pas mieux d'être grand ou petit, c'est pas mieux d'être comme ci comme ça. Ça dépend de l'environnement dans lequel t'évolues et le sport. Donc bien sûr.
Et puis c'est mieux pourquoi. C'est ça la vraie question.
Exactement. Ouais. Et ce bouquin le fait très bien. C'est très bien. Il le fait très bien. Il l'explique. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas. Mais comme c'est un sujet sensible, moi je sais quand je suis amené à en parler, alors soit même là je suis en train pour tout te dire de réfléchir sur des formations de morphoanatomie. Une de mes premières slides, c'est ça. C'est justement attention, c'est de poser le débat pour justement nuancer un petit peu les choses et pour qu'on puisse discuter en. Vas-y, je t'écoute.
Non, je voulais juste demander qu'est-ce que t'as entendu, qu'est-ce que t'as eu comme reproche, comme objection.
Écoute, c'est tout simple.
Amené à être prudent, quoi.
En fait, sur les réseaux, donc moi je parle pas mal de ce sujet-là, de la morphoanatomie. Alors j'analyse, pour te dire, même j'analyse des fois des gorilles ou j'essaie de comprendre un petit peu pourquoi le gorille a cette forme. Et quand on regarde un petit peu son environnement, on comprend pourquoi il est comme ça. Et évidemment, si on ramène ça, c'est que j'ai eu des commentaires des fois sur des réseaux Facebook où je mettais un post d'un athlète ou d'un autre. Et souvent, ce qui revenait dans les commentaires, pas systématiquement, mais certains me disaient « Oh là là, sujet sensible, le meilleur moyen de créer des tensions. » Alors que c'était pas du tout le but de mon propos. Mais c'est là où j'ai vu que, oula, attention, va falloir être vigilant, alors que moi, ça ne m'était même pas venu à l'esprit, si tu préfères. Parce que je baigne dedans et que moi, je regarde ça, je suis fasciné, je me fiche pas mal de savoir si t'es grand, t'es petit, t'es noir, t'es... Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les gens fonctionnent. Et je te dis, je faisais même des je regarde les gorilles, j'aime beaucoup ça, j'aime bien comme voir un petit peu comment ils fonctionnent. Et c'est d'ailleurs, une petite digression encore, mais c'est d'abord Albert Einstein qui disait, si tu juges l'aptitude d'un poisson, l'intelligence d'un poisson à sa manière de grimper un arbre, tu fais fausse route. Donc encore une fois, faut toujours ramener le prisme de la morphoanatomie, de l'environnement, l'écosystème dans lequel on évolue. Et donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise forme, de meilleure race qu'une autre. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais attention maintenant.
Est-ce que tu as croisé des spécialistes, des experts, de près ou de loin, qui t'ont semblé, utiliser un petit peu ça à des fins de, pas de propagande, mais tu vois que un petit peu comme je suis très nul en histoire, je veux pas dire de conneries, mais par exemple Hitler a utilisé des travaux scientifiques pour essayer de concorder ça avec son idéologie, par exemple. Bon, je vais très loin, hein, je veux dire, ouais. je veux pas te demander si t'as croisé des mecs qui veulent ça, mais est-ce que t'as vu, je sais pas, dans les experts justement où il y avait un regard biaisé de jugement de valeur sur différentes personnes, sans forcément citer, tu vois, mais genre une dérive, quoi.
Non, écoute, alors moi, pour les gens avec qui j'en ai parlé, non, alors j'en avais parlé, je connais un petit peu Rudy, donc j'en avais parlé quand je l'avais vu, on n'a jamais eu ce souci-là, au contraire, donc c'est quelqu'un qui était très ouvert, donc j'ai pas eu de problème, c'est celui avec lequel j'en ai le plus parlé, je connais pas, alors je connais Frédéric Delavie évidemment, parce que j'ai tous ses bouquins et j'ai écouté les podcasts, et notamment le dernier sur lequel il est passé chez toi, là, qui était très intéressant, voilà, mais j'ai jamais parlé de vive voix avec lui de ça, Gundy non plus, enfin Michael Gundy, son acolyte non plus, donc voilà, mais donc non, moi j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, mais effectivement, Hitler avait fait dire beaucoup de choses aux expériences scientifiques qu'il menait. Et effectivement, on peut vite dériver.
Sur le fait qu'il y a une race supérieure, quoi, etc.
Exactement, ça, ouais, voilà, exactement, avec des caractéristiques morphologiques bien particulières et qui sélectionnait les gens là-dessus, quoi. Et son but, c'était justement d'être capable de reproduire, entre guillemets, une armée de gens comme ceux qu'il estimait pouvoir faire évoluer ou faire apparaître. Ben, non, mais sinon, moi, non, je n'aime jamais ça.
D'ailleurs, c'était quoi? C'était le grand, enfin, le fameux, le style nazi, entre guillemets.
C'est la pas, race arienne, c'est ce qu'il mettait en avant, oui. Alors après, je suis pas un spécialiste de ça, mais oui, globalement, c'était grand, fort, musclé, capable de résister. Alors, je fais une caricature, mais qui était certainement capable de résister à des degrés de fatigue plus importants, des aptitudes physiques au-dessus de la norme, avec tout ce que ça peut supposer derrière aussi, hein. On était dans les années 30 et 40, mais le spectre du dopage n'aurait peut-être pas été loin non plus. Des aptitudes au-dessus de la norme, donc le soldat idéal, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'est pas fatigué. Alors bien sûr, là encore une fois, on est sur de l'humain, mais je pense que son objectif, oui, certainement, il faudrait discuter peut-être, ça pourrait être intéressant, tiens, de regarder ça plus en détail, mais oui, voilà, des caractéristiques hors norme, quoi, voilà. Mais être grand, ça peut être intéressant, mais ça dépend si tu dois évoluer, tu vois, par exemple, si on se remet à la guerre des tranchées en 14-18, être grand, je suis pas sûr que c'était un avantage, tu vois, parce que t'avais ta tête qui avait tendance à sortir
passé,
de la
quoi.
Tranchée.
Mmh.
Exactement, puis quand il fallait te mettre dans le trou pour te planquer, bah t'es peut-être pas le premier qu'on mettait dedans, quoi, tu vois, parce que une fois dedans, pour bouger, donc encore une fois, c'était une vision des choses, mais est-ce qu'être grand, c'est un avantage pour tout? Ça dépend, tu vois, être grand dans certaines zones, ça peut être dangereux, tu vois, t'es exposé, voilà. Donc voilà, bon, en tout cas, lui, c'était la vision qui était la sienne, enfin tout du moins, c'est encore une fois en caricature peut-être un petit peu, mais c'était certainement une des visions qui devait le mener à penser ça, quoi.
Non, ben tu vois, c'est intéressant. Je pensais pas qu'on allait parler à un moment donné de. C'est ça qui est intéressant, hein, dans les podcasts, et c'est pour la raison pour laquelle j'essaie de les préparer à minima,
ouais, non,
pour avoir des trucs comme ça, parce que c'est venu petit à petit, et je me suis dit, tu vois, à force d'aller vraiment dans chercher presque la meilleure génétique ou la meilleure morphologie, la meilleure préférence, etc. Ça peut venir à faire penser à ça, quoi.
Il y a toujours ce biais-là de sélection.
À la physiologie de race, quoi.
Ouais, exactement. Et ce qui peut être intéressant de voir, c'est de voir la tête que faisait Hitler quand Jesse Owens a gagné les Jeux Olympiques du 100 mètres 7. Cette image-là est très connue en 36 à Berlin, Jeux Olympiques de Berlin. À ma connaissance, il est quasiment le seul individu de race noire à la finale du 100 mètres. Et c'est lui qui gagne. Et il suffit de regarder la tête d'Hitler. Tous ceux qui sont à côté, alors, je me souviens pas de tous, mais t'en as qui ont le morphotype proche de ce que pourrait suspecter d'Hitler d'être performant. Et pourtant, il est bas à plate couture, quoi. Tu vois? Sur un terrain qui est pas du tout une piste d'athlète aujourd'hui. Donc c'est, encore une fois, est-ce que là, à cette époque-là, c'était bien d'être grand? Bah, apparemment, peut-être pas suffisant, puisqu'ils n'ont pas gagné, hein. Donc, tu vois. Donc c'est ça.
Il a dû, Il a dû trouver une raison pour laquelle ça a pas marché.
Ah,
il a
certainement, dû, ouais.
Un biais de confirmation très puissant à mon avis.
Ouais, clairement, mais c'est vraiment marquant cette image. Et bon, en plus au-delà du fait que ce soit Jesse Owens qui est quand même un des premiers grands, des plus grands athlètes du XXe siècle. Donc du coup, c'est intéressant, mais on peut faire un parallèle avec ça, ouais.
Ok. Bon, et alors. On a passé un peu là sur les préférences motrices, on a déjà défini un peu ce que c'était. Je pense que c'est assez clair. On va y revenir. La morpho-anatomie. Comment tu définirais la morpho-anatomie? Peut-être simplement. Ça fait un moment que j'en ai pas vraiment parlé sur ce podcast. Et ouais. Comment tu l'as découvert? Comment t'as été venu à t'intéresser à ça?
Écoute, on va faire simple. Comme je te disais tout à l'heure, par le passé, sportif de niveau. Avant ça, j'avais un papa qui était très sportif. Enfin, j'ai toujours un papa qui est très sportif. Depuis tout petit, en fait, il était fasciné par les bouquins. Alors, comme t'es fan de muscu, ça va te parler. Lucien Demeyès, Jean Texier, donc Le Monde du Muscle, tous ces magazines. Voilà, tous ces magazines. Moi, il avait tout stocké. Je te parle de ça dans les années 80. Et du coup, en fait, je suis tombé dedans. Je devais avoir une dizaine d'années. Je voyais régulièrement mon père s'entraîner dans les sports de combat ou en muscu. Et du coup, dès tout petit, j'ai commencé à essayer de comprendre. J'ai pas fait ça pour être avec lui. C'est juste que ça m'a toujours attiré. Alors, ça fait un peu cliché que de dire ça, mais c'est la vérité. Et il y a un été, je crois que je devais avoir 11 ou 12 ans. J'ai eu un problème, physique. Du coup, j'en ai parti en vacances, mais je pouvais pas trop bouger. Et mon père avait emmené quelques bouquins de muscu. Et je suis tombé dedans. Je les ai lus, je les ai tous lus. Ça m'a tellement plu. Quand je suis rentré, il y avait une pleine malle. Donc, encore une fois, des cahiers de Jean Texier, des Lucien Demeyès, etc. J'ai lu toute la malle. Je devais avoir 13 ans. 13 ans, je me souviens, c'était à peu près ça. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à la mécanique, au mouvement, etc. Au début, j'étais parti pour être kiné, pour tout te dire. Puis, finalement, j'ai fini podo, mais bon, voilà, c'est pas plus mal. Mais donc, j'ai toujours été passionné par le muscle, la forme. Et donc, mon œil était un petit peu averti parce qu'on regardait déjà les compètes à l'époque. Alors, on parlait pas autant du dopage qu'il y a aujourd'hui, mais on se doutait de la forme des corps. Mais on voyait déjà des différences, en fait. Tu voyais déjà des nuances de corps qui étaient différentes. Les gars, ils avaient beau s'entraîner. S'ils n'étaient pas faits pour prendre des pecs, ils ne prenaient pas de pecs. Alors, avec les produits exogènes, les méthodes d'entraînement, ok, elles amélioraient, mais c'était pas ça. Et puis, bien sûr, dans la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu les Michael Gundil, surtout Frédéric Delavier, qui est arrivé avec ses bouquins sur la morphoanat, et qui a bousculé un petit peu toute cette vision des choses. Alors, même si au départ, c'est pas un physiologiste du sport, mais il n'empêche qu'ils ont vu, ils ont eu un œil différent. Et alors que nous, dans les écoles, je sais pas pour toi, mais moi, je me souviens mes études, on te disait qu'un joue, ça fait de la flexion-extension, on te parlait pas de la longueur musculaire ou de la longueur osseuse. Alors que pourtant, on t'en parlait, mais on te disait pas qu'il y avait des nuances entre les personnes, en fait, tu vois. On te disait.
Oui, et à quel point ça avait un impact sur, ensuite, la mécanique, le mouvement et.
Voilà, dans une chaîne. Voilà, dans une chaîne globale, on te disait pas, par exemple, que sur une chaîne polyarticulaire, c'est plutôt le muscle fort, c'est un muscle long, éventuellement, dont le diamètre est plus large, qui a un potentiel de force plus élevé, que le cerveau va aller recruter parce que, à ce moment-là du mouvement, c'est celui qui est susceptible de produire le plus de force avec le moins de consommation énergétique, tu vois. Ça, on te le disait pas. Donc, tu partais du principe que, il y a tel muscle, admettons, il y en a 4, allez, c'est 25% de travail pour chacun d'entre eux, quoi. Et tu te posais pas plus de questions que ça. Et pourtant, quand tu tiens ce biais-là, la morpho-anatomie, non, tu sais que selon la longueur de l'os et aussi la longueur du muscle qui repose dessus, ça change tout et que selon le positionnement et le mouvement que tu fais, ça impacte également. Et si on rajoute ta préférence motrice, c'est-à-dire si tu t'équipes plutôt sur l'avant ou plutôt sur l'arrière, plutôt à droite, plutôt à gauche, encore une fois, ça rajoute un élément déterminant à ça. Mais ça, non, on t'en parlait pas, quoi. C'était plutôt assez sommaire. Hein. Donc c'est venu bien après, donc je dirais les années 2000 pour la morphoanat, quoi.
D'accord. Eh ben alors les travaux de Michael Gundil et Frédéric Delavier. Pour ceux qui découvrent le podcast, Frédéric Delavier, donc je l'ai reçu sur l'épisode 66. Michael Gundil 73, qui sort très bientôt. Là au moment où on se parle. Et ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Arnaud Guéraud. Je sais pas si tu le connais, qui est aussi podologue sur Paris que j'ai.
Ouais, j'ai entendu. Ouais. T'avais fait un podcast sur la posturologie, ouais.
Exactement. Voilà, posturologie, podologie, tout ça. Et il y avait déjà pas mal d'idées là par rapport à ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Un super épisode. Pas une des personnalités les plus connues, mais en revanche un des podcasts parmi les plus intéressants pour ceux qui veulent en savoir plus sur la posturologie. Et puis il y avait Sébastien Zimmer aussi que j'avais reçu que tu dois connaître, je pense.
Labo neuro, c'est pas la fille suisse.
Labo RNP, ouais.
Voilà exactement, spécialisé dans tout ce qui est réflexe archaïque,
ouais. Ouais, voilà, épisode 40,
c'est qui font partie des préférences motrices et qui nuancent l'expression des préférences motrices.
Bon, Donc oui, voilà, tu découvres tout ça. Les travaux de Rudy, alors comment, parce que Rudy a beaucoup parlé de morphoanatomie aussi, Rudy qui est passé sur podcast, je vais pas à chaque fois dire qui c'est qui est passé.
Rudy Coya, ouais.
Bref. Alors lui, il a, alors pas tant, il le dit de cette manière-là, je crois, hein, je veux pas parler pour lui, qu'il a pas inventé la morphoanatomie, qu'il l'a pas détaillé. Par contre, il a un petit peu catégorisé et a amené un petit peu plus sur le côté pratique, sur, on va dire, des modèles que tu ressembles à
tel. Gorille, dinosaure, reptile, voilà, araignée, exactement, ouais. Il en a fait 6, ouais.
Et alors, ouais, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que vous en avez discuté un petit peu?
Ouais. On s'est rencontré avec Rudy. Écoute, j'ai contacté Rudy, c'était en 2018, parce que moi je commençais à faire des liens avec les préférences motrices, et du coup j'ai contacté Rudy, ouais, c'était en 2018. On s'est rencontré une journée entière sur Annecy, donc il m'a super bien reçu. J'étais passé du temps dans sa salle à Annecy. Après on a mangé ensemble, après on a été discuté longtemps du sujet, et l'idée c'était justement d'aller lui montrer un petit peu en quoi les préférences motrices pouvaient, Rudy, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est très grand, fait 1m96, donc un beau bébé, il doit faire dans les 100, un peu plus de 100 kilos, donc une belle masse, et du coup, avec un gabarit de sauterelle, et du coup, in fine, c'était essayer de comprendre un petit peu comment il cohabitait avec sa morphoanat, et comme lui, il voyait certaines, je veux pas trahir de secret, mais il voyait parfois certaines limitations ou certaines douleurs apparaître sur certains muscles, ou certains mouvements, tout du moins, notamment le squat. On essayait de comprendre, et moi, j'avais dit, écoute, j'étais parti avec ma plateforme de pression, c'est-à-dire c'est une plateforme sur laquelle les gens montent, tout simplement. Alors, elle peut servir à la fois en statique et à la fois en dynamique, sur laquelle on mesure l'évolution de ton centre de pression. En gros, l'application de ton centre de gravité au sol. Et ça permettait de voir, au moment du squat, comment il s'équilibrait, en fait. Tu vois, on essaie de voir cette nuance, cette notion. Et en parallèle, donc, les préférences motrices, ça s'observe, mais ça se teste également. C'est-à-dire qu'il y a environ 200 à 250 tests possibles sur une personne. Alors évidemment qu'on ne fait pas les 250 tests, mais on en fait quelques-uns pour déterminer un profil moteur de base. Et du coup, j'avais déterminé le profil moteur de base de Rudy. J'ai regardé ensuite comment il bougeait dans son mouvement spécifique. Et on a essayé de faire la parité entre ce qui est éventuellement qui provenait le mouvement des préférences motrices ou ce qui était plutôt quelque chose qui était impacté par la morphoanat. Donc c'est là, à cette occasion-là, qu'on a discuté justement de ces liens. On en a parlé longtemps. Et d'ailleurs, on avait bien matché parce qu'il m'avait même proposé de faire un article sur son site que j'ai fait sur l'expression des préférences motrices dans le squat.
C'est rien, il y a rien.
Exactement. Mais donc c'est comme ça. Et donc oui, Rudy avait mis en place une analyse morpho-anatomique. Alors maintenant, on parle d'anatomorphologie parce que c'est vrai que morpho-anatomique, quand on regarde un petit peu la définition, morpho, c'est la forme. Anatomique, c'est au départ, c'est une découpe, des dissections. On va dire plutôt une analyse anatomorphologique, c'est-à-dire la forme, l'étude de la forme du corps. Et globalement, il a déterminé 6 profils qui permettent, grosso modo, d'avoir une image aux gens peut-être plus simple. Donc, ce qu'il aime bien reprendre souvent, c'est l'image du gorille, qui est donc en gros un grand torse, des longs bras et des jambes plutôt courtes, qui sont plutôt donc.
Fait pour le squat.
Voilà, exactement, fait pour le squat. Peut-être un peu moins pour les mouvements développés au-dessus de la tête parce que des longs bras, c'est compliqué. Éventuellement, faire un développé couché avec des longs bras, moins évident. Un soulevé de terre, c'est pratique parce que t'as pas trop à te pencher, voilà. Et si t'es sauterelle, là, c'est l'inverse. T'as un tronc, entre guillemets, un peu plus court. Par contre, t'as des longs segments. Donc, encore une fois, avec des mouvements forts, des mouvements faibles. Et donc, ça a permis, je pense, aux yeux des gens qui étaient pas des spécialistes, c'est-à-dire que les gens qui ont pas forcément envie de se prendre la tête et de se retourner le cerveau pour essayer de comprendre quelle est la forme de leur corps, en 6 catégories, de donner une tendance. Donc ça, c'était pas mal parce que souvent les gens avaient tendance à se référer au morphotype de Sheldon, qui était au nombre de 3 et
ectomorphe, ouais.
Endomorphe, mésomorphe, exactement, et qui en fait ne traduisent pas du tout la forme de ton corps. En fait, ça te donne une tendance globale, mais ça te donne pas d'idées sur tes zones fortes et faibles, que ce soit tant sur le plan des leviers osseux favorables que sur le plan des leviers musculaires favorables. Ça donne juste une tendance. En gros, t'es grand ou petit, t'es mince ou gros, et puis tu prends plutôt du muscle ou pas. Ok, mais c'est pas la population. Toi, puis maintenant, on pourrait rajouter le skinny fat en plus, quoi. Donc ça, c'était.
Ça a été longtemps de ça. Alors. Une espèce de légende comme les ouais. Ectomorphes, mésomorphes, les profils de Sheldon. Et puis à un moment donné, il y a une grande mode où tout le monde disait finalement c'est de la merde. Enfin c'est de la merde. J'exagère un peu, mais que genre c'était pas il y avait rien qui avait été prouvé, que ça avait été balancé comme ça et puis que tout le monde l'a repris et puis ça a été comme une espèce de légende. A posteriori, toi qui es un peu plus dans l'expertise sur ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que parce que les 3 catégories sont ectomorphes, en gros c'est tu brûles beaucoup de calories, t'es plutôt fin. Et t'es, c'est ça. Mésomorphe, t'es quelqu'un qui prend vite du poids, que ça soit du gras et du muscle.
Exact.
Donc, il y a un métabolisme apparemment lent. Et l'endomorphe, c'est le parfait. C'est celui qui a pas beaucoup de gras et qui a beaucoup de muscles et qui a un bon métabolisme, c'est ça?
L'ectomorphe, c'est quelqu'un qui est plutôt longiligne et fin. Donc, ce serait plutôt le général de Gaulle. en gros, grosso modo. Tu vois, c'est quelqu'un d'assez long. Le mésomorphe, c'est plutôt celui qui va prendre de la masse musculaire. C'est le mésomorphe. Et après, l'endomorphe,
ah,
pardon, c'est
confondu.
Quelqu'un. Voilà, l'endomorphe, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à aimer à prendre un peu de gras. Et puis lui, il avait été même jusqu'à faire un parallèle sur la manière qu'était de vivre de la personne. Donc en gros, endomorphe, c'est George qui aime bien la bonne bouffe, etc. Il a une appétence pour la nourriture. L'ectomorphe, c'est plutôt le cérébral et qui a tendance à avoir un corps fin et qui, tu vois. Donc
exactement. J'avais vu ça en cours, je crois, à un moment donné, sur un des cours.
Exactement. Voilà. Et le mésomorphe, en gros, bah, c'est génial, c'est super. En gros, si t'es pas mésomorphe, tu te suicides, quoi. Donc, si tu veux faire de la muscu et que t'es pas mésomorphe, c'est fini, c'est foutu pour toi. Non, mais en gros, c'était un peu caricatural. Mais ça avait le mérite. C'est comme toute chose. Moi, je dis ces gens-là, c'est comme tous les précurseurs. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses fausses, mais tout n'est pas faux et ils ont le mérite d'avoir vu peut-être des choses avant d'autres. Et ça ouvre justement des portes après pour que certains aillent chercher plus loin dans le sujet, creuser plus loin et donc donner naissance peut-être, ou pas donner naissance parce qu'on l'a sous les yeux, mais sauf qu'on n'avait pas cette manière-là de l'avoir, mais permettre de faire éclore bah, notamment la morphoanatomie, tu vois, s'interroger sur la forme des corps. Tu vois, si tu regardes
le modèle est valable jusqu'à qu'il y en ait un meilleur, quoi.
Exactement, c'est toujours pareil. On est obligé de se baser. C'est mieux que de ne pas avoir de référence, parce que quand t'as besoin de prendre quelqu'un en charge, si tu sais pas sur quoi te baser, si t'as pas de repères, ça veut pas dire qu'ils sont bons pour tous, mais ça te permet de tester par rapport à une norme ou une base. Cette norme, évidemment, elle a ses limites, mais c'est une base. Si t'as pas de base et pas de repères, si je te dis oh là là, t'es gros, ouais, tu vas me dire mais je suis gros par rapport à quoi? C'est quoi gros? Tu vois, c'est quelle est la notion du gros? Si oh là t'es grand, ouais mais alors c'est quoi grand? Est-ce qu'un mètre 78 c'est grand ou 1m74? Tu vois, donc c'est toujours pareil. Et la repère, bah si tu prends la taille moyenne du Français, tu bah c'est tant. On peut considérer que si tu fais 4-5 centimètres de plus, on va dire que t'es plutôt grand. Et si tu fais 4-5 centimètres de moins, t'es plutôt petit. Mais pour ça, il faut une norme ou une moyenne. Bon bah voilà, bah ces repères là, ça te permettait d'avoir une vision déjà de la personne et de la comparer à ça. Mais trois gabarits, c'était très limitatif parce que clairement, on peut pas se résumer à trois gabarits, quoi, ni même à 5 ou 6. Hein, c'est beaucoup plus large, mais ça donne des tendances déjà. Ça donne des tendances. Donc ça a quand même du sens. Et je trouve qu'il a eu le mérite, Sheldon, de mettre les pieds dans le plat et parler d'un sujet dont personne s'intéressait avant, quoi. Donc ça, c'est bien.
Ok, bon bah alors maintenant l'anatomorphologie, donc on va dire que c'est le modèle plus évolué et un petit peu plus recherché et plus actuel de ces morphotypes. Alors c'est Rudy hein, qui a classifié un peu donc gorille, donc voilà, c'est plus pour le squat. T'as la sauterelle qui a des longs bras, longues jambes, donc tous les mouvements de pousser en général, c'est pas top parce qu'il y a beaucoup d'amplitude sur les mouvements. D'ailleurs, la sauterelle, elle est forte à quoi, je crois, au tout ce qui est tirage, peut-être, à la limite.
Oui, alors, tout dépend quel tirage, en fait. C'est-à-dire que, il faut voir, ça dépend ce que tu cherches à voir. Est-ce que c'est, si par exemple, si t'as des longs bras, donc on va prendre l'exemple de la sauterelle qui a des longs bras, si tu te suspends et que tu te fais des tractions, la distance pour ériger ton poids sur le haut, d'accord, pour te rapprocher de la barre de traction, va être plus long que quelqu'un qui aurait des bras plus courts. La sauterelle, elle va peut-être pouvoir compenser certains mouvements. Alors tout dépend si tu as quand même un membre sub qui est peut-être un peu plus long proportionnellement que ton membre inf, tu vas peut-être pouvoir compenser et chercher tout ce qui est barre au sol. Mais la sauterelle, c'est pas vraiment un gabarit qui est idéal, on va dire, pour les mouvements de muscu quand même. Puisque les mouvements de muscu, quand tu utilises le membre inf ou le membre sub, dès que tu as des longs membres, ah, c'est chiant. Après, si jamais tu as des... Pardon, c'est pas très agréable. Ouais, on va dire comme ça.
Non, tu peux.
C'est pas super pratique. Mais après, je nuancerai ça dans le sens où d'avoir des longs segments, c'est embêtant. Mais si tu as des longs muscles dessus, ça va compenser ce long segment. C'est-à-dire que si tu as un long quadriceps sur un long fémur, la masse et donc la force potentiel que ce quadriceps va pouvoir produire et avoir peut permettre quand même de mobiliser la structure. Donc c'est toujours pareil, il faut voir la longueur du segment, mais aussi la longueur du muscle qui le tapisse, et aussi éventuellement comment ce muscle est stimulé dans le mouvement en question, en fait. Parce que tu as des gens qui vont avoir peut-être un long fémur, un quadriceps court, mais quand ils font le mouvement, si on le rapproche au terrien ou à l'aérien, eh ben ils vont plutôt ressentir le mouvement à d'autres endroits, et du coup ça va pas trop les impacter que d'avoir en gros ce fémur long, toute proportion gardée, j'entends. D'accord? Donc c'est encore une fois, faut se dire quel mouvement tu fais. Si t'as des longs bras et que tu fais du squat, on s'en fout, c'est pas grave, génial. Si t'as des longs bras et que tu veux battre le record du monde de développé couché, ah là, ça va être chiant là. Tu vois, à moins que tu aies une cage thoracique très épaisse et qui te permette du coup de diminuer l'angulation. Mais tu vois, c'est toujours pareil. Après, il y en a toujours qui vont dire, ah oui, mais moi, j'ai un pote qui a ça. Bien sûr, c'est comme il y en a qui fument 3 paquets de cigarettes, ils meurent pas tous. Mais globalement, tu sais que potentiellement, plus tu fumes, moins ça va être facile pour toi. C'est pareil pour les longs segments, en fait. C'est des tendances, en fait. C'est des tendances. Faut pas dire c'est comme ci, comme ça. C'est des tendances. Et donc, Rudy est parti là-dessus, effectivement.
C'est hyper intéressant ça, parce que c'est là où tu vois que alors c'est multifactoriel et que la morphoanatomie te donne des idées, te donne des causes pour lesquelles tu peux être bon sur certaines choses et d'autres sur ça explique des choses, donc ça c'est hyper intéressant.
Tout à fait. Ouais.
Et puis tu peux ensuite t'adapter. Par exemple, ce matin je m'entraînais à l'extérieur, j'ai réussi à trouver ici là un petit parc de street workout pas très loin, j'étais avec un ami et on discutait comme ça, et moi je suis plutôt bon, ça se voit peut-être pas ici là à l'image, mais je suis plutôt sauterelle, j'ai des longs bras, si tu veux, par rapport au corps, j'ai des longues jambes aussi, je suis pas très bon, et par contre, j'ai une clavicule courte, j'ai vraiment une clavicule courte, et une cage thoracique plutôt épaisse, tu vois, donc, mes bras longs, si tu veux, ça veut dire, et alors, j'en discute avec un ami qui est très branché muscu aussi, et je lui disais, ben, en fait, moi, le développé couché, je suis à l'aise dessus, je suis à l'aise, c'est-à-dire que, je sens que je suis stable, je peux pousser, je sens tout dans les pectoraux quasiment.
Ouais.
Je fais 4 séries de 10 avec ma série de travail. J'ai de la congestion, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, au niveau des performances, c'est une catastrophe. J'ai des bras, j'ai l'impression d'avoir de hyper long. Donc, si tu veux, j'arrive à garder les omoplates serrées parce que j'ai clavicule courte et que j'ai quasiment pas de mobilisation thoracique des omoplates. Mais si tu veux, j'ai tellement d'amplitude que oui, je sens les pectoraux, mais en termes de performance, je pousse que dalle.
Est-ce que tes pecs descendent bas? Est-ce qu'ils sont plutôt bas, plutôt longs sur la hauteur? Du coup, ils sont parce que les clavicules sont courtes. Mais est-ce qu'ils descendent bas ou pas sur ton corps, sur ton tronc?
Non, ils descendent pas complètement bas. J'ai un abdomen court, mais je pense que tout le thorax. Et non, je pense qu'ils sont assez hauts. Après, il faudrait.
Ce qui peut expliquer éventuellement que tu prennes quand même et que tu arrives quand même à performer, c'est-à-dire qu'à ressentir tes pecs, c'est que c'est toujours pareil. Faut, dans un mouvement de développé, admettons, tu vas avoir les pecs, tu vas avoir le faisceau antérieur du deltoïde et tu vas avoir les triceps qui vont pousser. Si tu as des pecs avec des claviers, si tu as des longs bras, mais que tes triceps sont entre guillemets pas longs ou moyennement longs ou courts, que tes deltos sont courts, ton pec il sera quand même plus volumineux. Ton cerveau il veut pousser, donc même si dans tous ces mouvements là c'est pas propice, n'empêche que le pec c'est peut-être le plus fort des trois. Bingo, tu vas ressentir le pec. Par contre, si on mesure la performance, c'est la poussée, si le poids que tu es capable de soulever, un copain qui aurait le même niveau que toi, mais qui aurait des structures plus adaptées, lui il va peut-être performer plus que toi. Voilà. Donc, si on regarde ta forme de corps.
Développer plus de force.
Exactement. Tout à fait. Ta forme de corps, peut-être que tes pecs vont prendre. Donc, toi, tu vas dire, non, moi, ça marche super pour moi, le pec. Par contre, si on regarde la quantité de poids que tu soulèves, enfin, là, en une rep, là, on va voir des nuances, en fait. Parce qu'effectivement, l'expression que tu pourras, toi, fournir, l'expression de force que tu pourras fournir, sera pas la même que ton copain qui, lui, aura peut-être un corps plus propice à ça. Voilà. Oui, effectivement.
C'est exactement ça. T'as mis l'explication sur la situation et le pote que j'ai, qui lui est grand, il fait 1m93, je crois. Il est aussi plus ou moins sauterelle. Il a des longs bras. Par contre, il a des clavicules, plus longues. Et lui, il est plus lourd aussi. Il est plus grand. Donc, il est plus lourd que moi. Il a jamais fait 100 kilos au développé couché. Mais, il est plus lourd que moi. Mais par contre, le développé couché, c'est une catastrophe pour lui. Il est obligé tout le temps de serrer les épaules parce qu'il sent qu'il est pas à l'aise. Il est pas bien, il prend rien dans les pecs, c'est tout dans les épaules, il sent tous les épaules et les triceps.
D'accord.
Et ça serait un peu, et on a des similarités physiques et des différences, mais sur ce mouvement, pareil, et on a l'inverse quasiment, tu vois. Lui il a plus de capacité à lever, mais par contre, il sent rien au pec. Moi, c'est l'inverse. Tu vois.
Bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour la même consigne, soulever la barre avec les bras, il y en a un qui va le ressentir à un endroit, l'autre qui va le sentir à un autre endroit. On a exactement ce même type dans un mouvement qui est très à la mode que tu vois, alors qu'on voyait en salle de muscu à l'époque où les gens pouvaient y aller. C'était le hip thrust, en fait. Donc, clairement, avec cette barre sur les hanches où c'est censé travailler les fessiers. Ouais, mais il y en a, ils ressentent les douleurs dans les lombaires, enfin, dans les muscles paravertébraux, dans les ischio-jambiers, d'autres un peu dans le quad, mais bon, c'est pas le muscle dominant. Donc, et pourtant, c'est le même mouvement. Et ouais, mais mec, si t'as un fessier court, des ischios longs avec des paravertébraux toniques, c'est pas forcément le fessier que ton corps va recruter, tu vois, qui va aller chercher. Donc ça, c'est toujours intéressant de se poser la question. Et les gens comprennent pas. Ils disent, mais pourtant, il y a écrit sur le bouquin que pour travailler, pour avoir un fessier de DS, la fille, elle va te faire du hip thrust à mort, sauf qu'elle se retrouve avec des ischios de buffle et puis un fessier qui est plat. Et elle comprend pas. Bah oui, mais parce que ton corps, en fait, plus c'est lourd, plus il va chercher le muscle avec lequel il génère de la force. Et croire que dans un mouvement polyarticulaire, tu pourras répartir de manière harmonieuse la force, c'est une erreur. Donc il faudrait plutôt isoler le fessier, quitte à le rendre plus fort dans un mouvement isolation. Et après, refaire du hip thrust. Et là, peut-être que ton corps, ton cerveau en permanence reçoit ce feedback de force, il va se dire tiens, ça y est, il va ressentir que le fessier est potentiellement un peu plus fort, et il va répartir la contrainte en fait, puisqu'il y a un feedback permanent, hein. Quand on réalise un mouvement, il y a certes le muscle au départ fort, mais en permanence le cerveau reçoit des afférences qui lui donnent des infos sur la quantité de force que tel muscle ou tel autre muscle est capable de produire, et il choisit en temps réel tel muscle ou tel faisceau musculaire en fonction de son état de fatigue, de l'énergétique, du mouvement, enfin de plein de paramètres. Là je pars sur d'autres aspects, mais je pars un peu dans tous les sens, hein. Faut me structurer parce que
C'est très bien. Au milieu, devant, toi, t'as les préférences motrices en 3D.
Moi, je suis quelqu'un, je suis un rythmique. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il a commencé, le mouvement le nourrit, en fait. Donc, du coup, exactement. Donc, voilà.
Parfait, ça, pour les podcasts. C'est... Donc, un muscle faible qui serait pas, enfin, faible, parce que peut-être, attention aux mots, parce que ça vous,
oui.
Muscle faible.
Par rapport à quoi, c'est toujours pareil, ouais, voilà. Ouais.
Mais là, si on reprend cet exemple des fessiers qui n'arrivent pas à s'activer sur les hip thrust, ou en tout cas, c'est pas eux qui reçoivent le maximum de
charge.
Ouais, bon.
De contrainte.
Ça voudrait dire que, par exemple, là, je prends les fessiers, ça peut être sur n'importe quel mouvement. C'est-à-dire qu'il faudrait travailler en isolation, les fessiers pour, tu me dis si je me trompe, pour raccorder les systèmes nerveux, pour avoir plus de connexion neuronale entre les muscles, et c'est ça dont on parle.
Alors en fait, globalement, travailler un muscle, souvent les gens qui ont du mal à stimuler ou qui ont un muscle qui ne répond pas, ils ont déjà du mal à le sentir en fait, tout simplement, c'est-à-dire que la connexion n'est pas forcément faite.
Ils ne congestionnent pas d'ailleurs.
Exactement. Et ce qu'il faut bien expliquer aux personnes, c'est que quand ils font des mouvements polyarticulaires, alors on va dire que le hip thrust c'est pas vraiment polyarticulaire, c'est surtout la hanche et un petit peu le genou, mais c'est surtout la hanche, mais grosso modo, on va peut-être reprendre l'exemple du squat. Dans un mouvement polyarticulaire, donc qui sélectionne plusieurs articulations, donc plusieurs muscles, on demande au cerveau de soulever une charge. La priorité absolue au cerveau, au début, c'est quoi? C'est l'équilibre. Donc d'abord, ce qu'il doit gérer, c'est l'équilibre. Et après, il va soulever la charge. Donc pour ça, déjà, il a une préférence. Donc là, on est dans de la préférence motrice. Une fois qu'on a déterminé ça, pour soulever cette charge, il a donc différents muscles à sa disposition. C'est comme si on était en train de tracter une force avec 6 gars sur cette corde. T'en as 4 qui sont bons et 2 qui sont pas très bons. Si tu comptes sur les 2 qui sont pas très bons pour tracter la force, pour tracter la corde, bah, c'est mort.
Il y a rien qui soulève.
Exactement. Donc, peut-être avant de faire l'exercice, ce qui va être intéressant de faire, c'est dire aux 2 gars qui sont sur la corde, écoutez, les gars, on va faire un mouvement tout simple, on va vous faire travailler différemment pour vous renforcer un petit peu plus. Comme ça, quand on vous remettra dans le groupe avec les 4 autres qui sont très forts et que vous allez devoir tirer, bah, les 4 autres, eux n'auront pas forcément pris plus de force. En revanche, les 2 plus faibles seront pas aussi forts que les 4 autres, mais ils ont réussi un petit peu à améliorer leur schéma de fonctionnement. Et ben en fait, le muscle, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu l'isoles en faisant un travail d'isométrie, ça te permet déjà de créer toi-même et te concentrer dessus. Il s'agit pas de soulever une charge en envoyant un texto. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se concentrer sur ce muscle pour essayer de créer et ressentir cette congestion. Pas forcément en série longue. Au début, en série courte, pas en série longue, de manière à faire venir affluer le sang. C'est déjà une première information. Ça crée une connexion, en fait. Puisque toujours pareil, plus tu stimules une seule zone, plus le cerveau, pour s'adapter au mouvement qu'on lui demande, va devoir créer de la connexion ou tout du moins irriguer cette zone. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir développer une qualité de force ou améliorer sa qualité de force. Et quand on va réintroduire ce muscle dans le package des muscles qui permettent de faire du squat, bah, il aura amélioré son aptitude à générer de la force. Et du coup, globalement, on sera plus fort dans ce mouvement. Ça, c'est l'intérêt des mouvements d'isolation, en fait. Alors que des fois, pendant longtemps, on a cru qu'il fallait mettre plus lourd. Et on s'est dit, de toute façon, quand on va mettre plus lourd, bah, celui qui est faible, il va être obligé d'intervenir et il va être sollicité. Exactement. Eh ben non, pas forcément, parce qu'au début, souvenons-nous que le cerveau, ce qu'il veut, c'est durer, c'est la survie, et la survie, ça suppose de consommer le moins d'énergie possible. Si pour soulever la charge, je caricature encore une fois, je dois utiliser mon quadriceps plutôt que mon ischio ou que mon fessier, on va dire, eh ben je utiliserai le quadriceps. Et c'est pas parce que je vais mettre 20 kilos de plus que je vais aller chercher le fessier. Non, c'est soit j'arriverai pas à le soulever, auquel cas bah, les gens restent le cul par terre, soit ils vont arriver à le soulever, ils vont le pousser. Évidemment qu'à un moment, ils vont quand même aller stimuler un petit peu plus le fessier, ou ils vont diminuer la flexion, d'accord ? Mais ce mouvement d'isolation, ça peut faire sens, ou alors tu peux également faire, alors ça c'est plus du domaine des coachs muscu, c'est de faire de la pré-fatigue, c'est-à-dire donc encore une fois, pré-fatiguer ton quadriceps, pré-fatiguer tes ischios, et de manière à ce que, une fois que tu te mets sous la barre, comme ces muscles-là sont fatigués, et que tu essayes de monter, ça oblige aussi quelque part le cerveau des fois à essayer d'améliorer la force dans son fessier pour compenser ce déficit de force de quoi des ischios. Mais ça marche pas chez tout le monde. C'est comme toujours pareil. Tu as plein de techniques et il faut choisir ou sélectionner la technique adapté à la personne. Il y en a, ils vont dire, moi, l'isolation, c'est génial, j'adore. D'autres, ils vont dire, moi, j'ai besoin de pré-fatiguer mes muscles forts pour après aller chercher mes muscles faibles. L'idée, c'est de tester, de voir ce qui marche pour toi. Et puis, bah, tu prends. Et puis, si ça marche pas, tu laisses et tu fais autre chose. Voilà. C'était un, je suis parti en coach de muscu, mais l'idée, c'était, c'est de la morphonate, c'est ça.
J'en avais discuté avec Jean-Hanche le musclé. Je sais pas si tu connais.
Ouais, bien sûr.
À un moment donné, on parlait de son entraînement et de comment il avait un peu rattrapé ses pecs. Et lui, il disait que c'était la pré-fatigue. Et moi, par réflexe. Alors après, il m'a expliqué un peu comment lui il avait procédé. Que le but c'était pas de s'éclater les fibres pour ensuite être trop faible. Mais c'est vrai que a priori, moi j'aurais pensé, c'est ce que je l'avais dit et c'est ce que je vais te dire, que le fait de pré-fatiguer, c'est comme. Je le voyais un peu comme un truc contre-productif dans le sens où tu uses déjà tout le potentiel de ton muscle et lorsque tu passes en polyarticulaire, déjà qu'il lui en faut pas beaucoup pour être fatigué parce qu'il est faible, entre guillemets, et ben là tu l'as complètement détruit et en fait il va plus du tout s'activer puisque il a utilisé tout son potentiel de
développement. Alors lui, il est fatigué sur le développement
d'utilisation quoi, enfin d'énergie, tu vois, sur le moment.
D'accord. Tu veux dire que lui, il préfatiguait le muscle faible avant d'aller utiliser soulever la charge au développé couché.
Ouais, voilà, c'est-à-dire c'était des écartés, des choses comme ça. Et après il m'avait dit mais en fait, le but c'est pas de les crever, c'est juste de les activer, d'amener du sang et il dit mais donc, quand même c'est la limite est mince entre
elle est individuelle, lui, leur santé comme que ça.
Et il disait justement la préfatigue n'est peut-être pas le bon mot mais ça serait plutôt une pré-sollicitation. Tu vois,
d'accord.
Comme pour une préactivation, peut-être.
D'accord. Donc moi, dans ce cas-là, pourquoi pas? Effectivement, si la charge n'est pas énorme, histoire de faire affluer le sang dans cette zone et du coup d'augmenter le tonus postural de ce muscle-là. Enfin, tonus postural, peut-être pas le terme, mais le tonus musculaire de ce muscle-là, le mettre sous tension déjà, ça oui. Moi, quand je parlais de préfatigue, c'était de préfatiguer tes muscles forts pour obliger d'aller chercher ton muscle faible.
Ah oui, ben voilà, c'est l'inverse pour le coup.
Exactement. Mais ça peut faire sens, ce qui fait. Mais effectivement, le terme n'est pas préfatigue. Moi, je dirais préactivé en fait. Et effectivement,
mais c'est ce qu'il m'avait dit. Okay. Il m'a dit oui, ben en fait, le pré-fatigue n'est pas le bon mot. J'invite tout le monde à écouter cet épisode-là où il en a parlé, mais c'était ça. Ben, ça se rejoint, tu vois.
D'accord.
Pré-fatigue, c'est fatiguer les muscles forts pour que ils ne prennent pas trop l'ascendant et que ça soit le faible qui travaille le plus possible.
Exactement. Voir un petit peu ce qui se passe en fait. Alors, t'en as chez qui ça va marcher. Je reprends l'exemple de ma corde avec tes 6 gars qui tirent dessus. Tu pré-fatigues les 4 gars forts. Il reste plus que les 2 gars faibles. Soit les 4 gars forts n'y arrivent plus. Les 2 gars faibles vont développer une force incroyable. Ils vont se dire putain. On se défonce, les gars, pour rattraper la faiblesse. Ils sont jamais comme les autres, mais ils vont faire ce qu'ils peuvent. Donc, ça va les stimuler. Soit ils vont pas y arriver. Auquel cas, ça va tomber. Bah, c'est pareil. En muscu, si tu vois qu'en faisant ça sur plusieurs semaines d'entraînement ou plusieurs séances, ça ne marche pas, il faut prendre autre chose. C'est juste que ta manière de fonctionner, la connectique qu'a ton cerveau avec ces muscles-là ne fonctionne pas comme ça. Il faut peut-être aller chercher autrement. Rudy avait notamment, il a peut-être parlé dans son épisode. Lui, il avait une faiblesse parce qu'il l'a bien rattrapé. Il avait une faiblesse au niveau des épaules.
Des deltoïdes.
Ouais. Exactement. Et il s'est amusé à faire des séries longues, des séries de 100, en fait. Il faisait 2-3 séries avec 100 répétitions à chaque fois pour justement, ce que tu disais tout à l'heure, pas avec des charges lourdes, mais régulières pour congestionner ce muscle. Et le fait de le congestionner, c'est toujours pareil. Hein. Plus tu irrigues, plus tu vascularises une zone, plus quelque part, du coup, indirectement. Alors, les études aujourd'hui montrent pas ça. On peut pas augmenter le nombre d'unités ou de plaques motrices. C'est la capacité. En fait, c'est une fibre nerveuse qui va permettre de stimuler plusieurs fibres musculaires. En revanche, tu peux peut-être améliorer la recrudescence de toutes les unités motrices. On ne les utilise pas tous. C'est-à-dire tous les câbles qui sont reliés au muscle. On a certains, on les utilise que partiellement. Donc, il y en a certains qu'on n'utilise pas. Bah, quand tu les congestionnes, quand tu les travailles régulièrement, tu obliges ton cerveau à essayer d'aller chercher toutes les connexions nerveuses possibles. Voilà. Et ça fait sens de les pré-fatiguer, de les pré-activer. Je pense que c'est peut-être là-dessus que Jean-Hanche voulait aller rebondir, tu vois.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, alors tu l'as un petit peu dit là, t'as donné un indice, mais on ne peut pas inverser la tendance. Ça veut dire que est-ce qu'il y a un âge à partir du moment où tu peux inverser la tendance? C'est un muscle faible, enfin qui par exemple sur un squat, ton quadriceps il veut pas grossir parce que c'est tout le temps les fessiers ischio qui travaille plus. Est-ce que en faisant énormément d'isolation, de la pré-fatigue des autres muscles ou de la pré-activation, enfin essayer d'utiliser toutes les techniques, est-ce que c'est possible d'inverser la tendance et te retrouver finalement avec le quadriceps qui devient
Je te dirais, ça dépend ce que tu cibles. Si l'objectif pour toi c'est d'être Monsieur Olympia, non. Clairement, alors pour ceux qui sont peut-être pas spécialistes, Monsieur Olympia c'est le concours ultime de culturisme. Alors on occulte l'aspect évidemment drogue, exogène, etc., stéroïdes, mais globalement, si t'as un muscle faible, pour être Olympia, faut avoir une masse telle que t'arriveras pas à inverser la tendance. Par contre, si l'idée c'est de performer, donc d'avoir un muscle efficace dans un sport donné, Là, attention, ça peut s'entendre. C'est-à-dire que ton muscle, il va pas changer de longueur, il va pas forcément changer de diamètre, parce qu'une fois que c'est figé, en revanche, ta capacité à recruter l'intégralité des fibres musculaires, oui, elle va s'améliorer. Donc, automatiquement, ton potentiel de force va s'améliorer dans ce mouvement-là. Voilà. Mais on ne peut pas allonger une fois l'âge adulte atteint, on ne peut pas allonger un muscle, on ne peut pas le rendre plus long qu'il ne l'est. Alors que quand on est en phase de croissance, il y a des études qui laissent à penser qu'on pourrait éventuellement, selon certains mouvements, à nuancer ou à améliorer la longueur musculaire. Par exemple, si tu fais de la natation, ça a tendance naturellement à ouvrir la cage thoracique. Donc, si tu ouvres la cage thoracique et que ton muscle est en phase d'extension parce qu'il est en pleine croissance, merci, en général, les pectoraux vont s'ouvrir. Alors, encore une fois, on est dans du visuel, mais les pectoraux vont s'ouvrir. Donc, tu vas globalement gagner de la longueur musculaire. Voilà. Mais une fois que tu es adulte, bah, malheureusement, tu peux te faire autant d'écartés que tu veux, même à la limite, d'accord, ça va devenir presque dangereux pour toi. Tu pourras pas allonger ta longueur musculaire. Ça, non. C'est figé et ça restera comme tel.
Ce qui est assez terrible parce que c'est jamais prouvable au final, parce que un adolescent qui ferait de la natation, ok, il ouvre la sa cage thoracique, mais on ne saura jamais si sans ça, il aurait quand même eu cette cage thoracique élevée parce que génétiquement il a été fait comme ça.
Exactement, parce qu'encore une fois, il y a tellement de choses qui font les hypothèses. Il y a déjà la génétique, son papa et sa maman. Tu peux avoir, je prends un exemple, admettons, tu as un muscle qui fait, si on prend un biceps, on va prendre un muscle sain qui permet de faire de la flexion de bras. Tu peux avoir un biceps, je prends une bêtise, de 10 cm de long, d'accord, donc avec une certaine longueur musculaire, et puis tu as un copain qui a un biceps de 12 cm de long. Bon, il y a une moyenne, on sait que, alors je connais pas le chiffre, mais tu sais que globalement, il y a tant d'unités motrices par fibre musculaire. Globalement, tu sais que si tu as 10-12 cm de muscle, et que l'autre il en a 10, tu as plus de masse musculaire, donc potentiellement tu devras avoir plus de connexions nerveuses avec tes muscles, donc un potentiel de force accru. Mais rien ne dit que peut-être le copain d'à côté, lui, bah pour 10 cm, il a peut-être quand même plus d'unités motrices que toi, et du coup, in fine, bah, il pourra peut-être développer autant de force que toi. Mais on sait quand même que, de par l'empirisme, par le recul qu'on a maintenant, soit que ce soit tant dans les coachs de muscu, que ce soit dans les études en physiologie musculaire, en recrudescence musculaire, on voit quand même qu'on parlait tout à l'heure de préférence motrice, mais qu'il y a carrément à l'intérieur de ce système de chaînes musculaires, des préférences musculaires. Ça, on le sait. Si tu prends le foot, par exemple, dans les accélérations, dans les shoots, à 80% du temps, c'est souvent le long biceps qui est lésé. Souvent. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la trajectoire, la forme de ce muscle, c'est un des muscles les plus volumineux parmi les muscles ischio-jambiers, en fait. Ça veut pas dire que les autres ne servent pas. Ça
ah
veut
oui, le biceps dire moral, pardon, j'étais pas.
Le long biceps au niveau de, derrière la cuisse, derrière le fémur. Et du coup, c'est un des muscles les plus volumineux, donc potentiellement, c'est un muscle freinateur de la flexion de hanche. Et donc, le gars, quand il shoot comme un buffle, ou quand il accélère comme une brute, c'est le premier impacté, en fait, parce que c'est le plus fort. Après, ça ne veut pas dire que le semi-tendineux ou le court biceps, enfin moi je suis un peu ancienne nomenclature, hein, pardon pour les points de nouvelles, du coup va pas être sollicité, mais ça veut juste dire que le long biceps, il est naturellement recruté. Pourquoi? Parce qu'il a un diamètre plus large, donc un potentiel de force plus élevé, et une longueur également, de par sa trajectoire et de par sa longueur, plus importante. Donc là, c'est clairement de la préférence musculaire, en fait, intrinsèquement faite dans la morphoanate. Et ça change tout. Quand on prend ça, ça change tout. Il y a des études qui ont été faites, un laboratoire de Nantes là qui a bossé là-dessus, un gars qui s'appelle Lilian Lacourpa, qui est très intéressant, qui est spécialiste qui est PhD en recherche, et ils ont fait des études là-dessus dans le foot, et ils ont réussi à déterminer, selon certains groupes musculaires, je te disais, 80% du temps, c'est le long biceps, le biceps femoral qui va être lésé, quoi. Donc ça, c'est clairement de la préférence musculaire, et c'est lié à la forme et à la longueur musculaire.
D'accord. Bon, depuis tout à l'heure, quand on parle sur l'exemple, le fessier qui arrive pas à se développer, ou alors sur un squat, c'est le quadriceps qui arrive pas à se développer au détriment des fessiers, des ischios, ou alors sur le développé couché tout à l'heure, on parlait de, sur mon cas par exemple, une préférence pour les pectoraux à congestionner et à être utilisé sur le mouvement, peut-être au détriment des épaules et des triceps, qui de toute façon les épaules sur moi sont quasiment inexistantes, ou presque. C'est, on garde toujours espoir.
Et, on sait jamais.
Bonsoir. Sait-on jamais. Peut-être que je renverserai la tendance un jour, même si j'ai bien compris avec Mathieu maintenant que non.
Ah non, c'est jamais, on sait jamais. Non, faut jamais dire jamais.
Il faut jamais dire jamais. Mais de toute façon, c'est à partir du moment. Je suis désolé, j'ai le téléphone qui sonne, j'essaie de le raccrocher, je n'y arrive pas.
Il faut être polyvalent. Voilà.
J'ai fait répondre. Je suis désolé. Ça sera dans le podcast. Je suis pas chez moi actuellement, donc j'ai fait vert et rouge comme ça. Désolé. Désolé pour la personne qui était au bout du fil.
C'était un auditeur qui
te rappelle en plus.
En avance.
Je suis désolé. Hein. C'est ça. Je le contrôle pas. Hop. Et alors, oui, pour revenir sur le truc, c'est quand on parle de ce muscle qui n'arrive pas à se développer, par exemple, qui manque de force, donc en gros le tireur de corde qui est faible, on parle d'un muscle dit court. Est-ce que jusqu'à maintenant, ou alors on peut avoir un muscle long qui est faible, tu vois?
Ouais. Ce muscle long qui est faible, là pour le coup, s'il est faible, c'est soit parce que potentiellement il a un degré d'innervation qui est peut-être moindre, soit c'est aussi peut-être parce que la personne, l'antécédent, par exemple quelqu'un qui a jamais fait de sport, encore une fois on part sur la caricature, mais ça permet de simplifier le discours. Quelqu'un qui a jamais fait de sport, tu lui demandes à 30-35 ans de se mettre à la muscu, il pourrait avoir un muscle long, c'est pas dit qu'il arrive à cibler ce muscle en particulier parce qu'il a pas l'habitude d'aller le stimuler globalement. Voilà, exactement. Il a pas l'habitude de le recruter. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, ça pourrait éventuellement être indiqué par ce qu'on appelait tout à l'heure la préférence motrice. C'est-à-dire, en gros, si je m'équilibre sur l'avant ou sur l'arrière, ça va également nuancer le chef musculaire que je vais aller recruter. Si je te prends l'exemple de ton long biceps. Pardon, des muscles ischio-jambiers, on va voir plus global. Si je me stabilise sur l'avant quand je déclenche le mouvement, donc je suis dans ma préférence de motrice que l'on appelle nous aérien, se déséquilibrer vers l'avant, et ben je les mets en avance, je crée une pré-tension musculaire du fait de me positionner sur l'avant pour déclencher le mouvement au niveau des ischio-jambiers. Donc déjà, je préactive le long biceps. Je le mets sous tension puisque c'est le plus fort sur les muscles ischio-jambiers. Alors que si je déclenche mon mouvement entre guillemets sur l'arrière, ce qu'on appelle nous le terrien, on met de la flexion nous dans ce mouvement-là. Et si je mets de la flexion de genou, là c'est pas forcément le long biceps que je vais aller recruter si je dois pousser ou utiliser, tu vois, mes ischio-jambiers. C'est deux notions différentes. C'est en cela que la morphoanatomie et les préférences motrices nuancent la sollicitation de la stimulation d'un muscle. Tu vois, j'essaye d'être simple, c'est pas évident à l'oral, mais voilà. Donc c'est toujours tout. Et il y a certainement également encore peut-être d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans cette histoire d'études de physiologie musculaire, c'est surtout depuis les années 60 hein, qu'on se penche dessus. Pas évident d'analyser un muscle. Ça suppose de faire des biopsies, donc de prendre entre guillemets. Si les gens ne savent pas comment ça se passe, biopsie, c'est on va chercher un bout de fibre musculaire, on étudie ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est pas agréable hein, pour celui qui se fait faire une biopsie musculaire. Donc on fait pas ça chez tout le monde. Et quand on fait ça chez un sportif, c'est parfois agressif. Donc les études qu'on a, elles sont valables, mais il y en a pas non plus en nombre énorme. Voilà, mais on sait que ça fonctionne grosso modo comme ça, et il y a plein de paramètres qui nuancent certainement cette expression-là, l'histoire du sportif, le sport qu'il a pratiqué, certainement l'environnement dans lequel il est, enfin, il y a plein de choses. Mais grosso modo, oui, il y a quand même une préférence musculaire.
Alors peut-être au risque de me répéter, tu vas me dire, j'essaie de comprendre aussi bien le truc et que ça soit le plus clair pour tous. Déjà, peut-être un muscle vraiment pour ceux qui savent pas, hein, qui ont tenu jusque là, qui sont absolument débutants. J'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde, mais je pense que j'espère pas. Un muscle long est un muscle dont le corps musculaire est long et dont les tendons, donc les accroches aux os, sont plutôt courtes. Voilà. Ouais. Après, c'est toujours parce que long court, il n'y a pas de diamètre, c'est pas à partir de temps, c'est toujours comparativement. Ça peut être long par rapport à quelqu'un, court par rapport à un autre. Donc bon, bref.
Exactement.
Et un muscle court, c'est un. Mais par exemple, moi, pas la première fois que je le dis, je l'avais dit avec Michael Gundil, que j'ai le biceps, les deux biceps qui sont plutôt courts. C'est-à-dire que j'ai un corps musculaire assez. Encore une fois, je vais pas faire un double biceps là où. À la caméra, mais bon, voilà, ici, je peux passer 4 à 5 doigts quasiment, tu vois.
D'accord, ouais, donc il est très court. Ok.
Donc il est vraiment très court. Ça, c'est caractérisé en musculation, ou en tout cas, chez Rudy, il en a parlé beaucoup, c'est qu'un muscle court va avoir moins de potentiel de force, moins de potentiel de développement aussi, qu'un muscle long. De toute façon, c'est facile à comprendre. Il y a moins de surface à développer, donc il y a le potentiel moins grand.
On est d'accord.
Et donc, il est considéré comme faible. Est-ce que c'est possible, d'avoir, là, dans mon cas, admettons, est-ce que ça aurait été possible d'avoir un biceps court, mais hyper fort? Tu vois, qui par exemple sur les tractions, c'est lui qui prend le plus de travail, c'est lui qui est le plus optimisé, malgré le fait qu'il soit court et que j'ai peut-être les dorsaux longs. Tu vois? Ou alors, par définition, il est court, il est faible.
C'est une bonne question. Je sais pas ce que t'as répondu, Michael, enfin Michael Gundil ou Rudy.
On parlait d'autres choses. T'inquiète.
D'accord.
Pas.
Moi, non, mais ça serait intéressant d'avoir leur avis. Écoute, j'aurais tendance à dire que globalement, si on se réfère à la longueur musculaire, alors ce qu'il peut faire, il y a une notion quand même qui est importante. La longueur musculaire, c'est une chose. Le diamètre en est un autre. C'est-à-dire que tu peux avoir un biceps long ou court, et un diamètre musculaire plus ou moins important. Je reprends l'exemple de mon biceps de ischio-jambier, le long biceps. Il a une forme plutôt, on va dire, ovalaire. Quand tu regardes sa trajectoire, bah, il y en a, il aura peut-être plutôt une forme plus filiforme, tu vois. Donc, automatiquement, la quantité de fibres musculaires va être moindre. Ça peut expliquer les variantes également. Tu peux avoir, t'en as ceux qui ont un biceps court. Si tu prends un exemple, alors là, on va sortir, il y a Kai Green, qui est très connu pour ça, un culturiste pro. Il a un biceps court, mais quand tu regardes son biceps, en fait, il a un énorme pic musculaire parce que son biceps, il est court, mais il a un diamètre musculaire qui est quand même très important. Et ce qui fait que quand il le contracte, bah, il paraît gros. On dirait une petite balle de tennis. Alors que d'autres qui auraient peut-être la même longueur musculaire, visuellement te donneront l'impression d'un biceps un peu plus rétracté. Donc c'est le diamètre musculaire et la longueur musculaire, ce sont eux qui impactent ce mouvement-là. Tu as la même chose sur le muscle solaire au niveau de la jambe, qui est en la loge profonde de jambe. C'est aussi la largeur du solaire qui fait sa force, ce n'est pas que la longueur. Donc c'est un muscle, c'est ça, c'est à la fois la longueur. Voilà, exactement. Donc ça pourrait expliquer le fait que tu aies un biceps court, mais que quand tu fais de la traction en longueur musculaire, il est court. Par contre, comme le diamètre est plus large, tu as plus de fibres. La longueur, elle est faible, mais comme il est plus large, le nombre de fibres musculaires est plus important. Et donc du coup, tu es quand même capable de générer de la force. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça.
Et si derrière, t'as un grand dorsal qui est plutôt court, pas très large, et ben, même si ton biceps est court, finalement, en fait, c'est tout est environnement.
C'est ramené à la personne. Voilà, exactement. Quand on dit, c'est quoi? Il est court, il est pas court par rapport à toi. Alors, sauf si t'as un frère jumeau et qui a théoriquement le même patrimoine génétique que toi, donc, normalement, il doit avoir une même forme musculaire que toi, mais bon, t'as quand même des variantes. Moi, j'ai des patients au cabinet et c'est pas des copier-coller. Des fois, il y a 1 ou 2 ou 3 centimètres de plus. Mais grosso modo, effectivement, c'est toujours faut toujours pas comparer la morphoanatomie d'une personne par rapport à l'autre, sauf si elles ont vraiment exactement les mêmes longueurs osseuses, etc. Oh là, c'est intéressant. C'est toujours ramené à la personne. C'est-à-dire, je fais un mouvement, quels muscles sont mis en jeu? Dans ces muscles mis en jeu, dans le mouvement que je suis en train d'effectuer, lesquels me paraissent à l'observable les plus longs et éventuellement les plus larges en termes de diamètre? Ce sont celui-ci ou celui-là, potentiellement, par rapport aux données scientifiques qu'on a et aux connaissances scientifiques qu'on a, on peut donc en déduire que ce muscle-là est peut-être celui que le cerveau va aller recruter en premier. Globalement, c'est plutôt comme ça que ça va se passer. Après, il faut mettre les gens sous les barres et voir comment ça se passe. Quelqu'un qui a fait de l'aviron, par exemple, qui a ce qu'avait fait Rudy aussi, mais Rudy, il a pas de mémoire, il a pas un dorsal court, un dorsal plutôt long, mais grosso modo, quelqu'un qui a fait de l'aviron, il a quand même l'habitude, de par la gestuelle qu'il a faite, d'aller stimuler son grand dorsal. Donc même s'il est court, s'il fait de l'aviron depuis qu'il a 5 ou 6 ans, tu peux suspecter qu'il a quand même une capacité, même si son grand dorsal est pas très grand, et ben aller le chercher quand même toutes les fibres musculaires. Donc il va quand même te développer peut-être plus de force qu'un gars qui aura un grand dorsal de la même longueur, mais qui aura jamais fait d'aviron. Voilà, c'est toujours pareil, il faut le ramener, c'est à nuancer, c'est très fin, c'est un outil qui est pour moi qui est exceptionnel. Par contre, il faut toujours faire attention et garder des nuances. C'est jamais la règle, c'est A ou B. Non, c'est très complexe, on est sur de l'humain et tu le vois toi également en cabinet dans le cadre de tes consultes d'ostéo. Les gens arrivent des fois et te disent j'ai un copain qui a eu ça, on lui a fait ça, ça va mieux. Tant mieux pour lui. Mais c'est pas pour ça, c'est une recette ne marche pas pour tout le monde. Donc c'est des éléments et la morphoanate, c'est un outil à associer aux autres, mais qui te donne quand même des tendances. Et il est clair que chez quelqu'un qui a déjà fait du sport, quand tu le regardes visuellement, eh ben tu vas déjà avoir une indication sur ses zones fortes et ses zones faibles. Donc pour revenir à la question qui était la tienne, tu peux avoir un muscle court, mais si son diamètre est plus grand, bah la longueur musculaire sera faible, c'est vrai. Mais comme le diamètre est plus large, eh ben la quantité de fibres musculaires, quand bien même elle serait courte, va être plus importante. Donc du coup, ça veut dire qu'ils sont capables de fournir quand même pas mal de force, quand bien même la longueur serait faible. Voilà.
Voilà. Et surtout en comparaison et en pourcentage par rapport à d'autres et les autres.
Exactement. Ouais, tout à fait.
Ok. Toi, tu t'es intéressé à la morphoanatomie d'abord? En premier, avant les préférences motrices, ou dans quel ordre ça s'est fait?
J'avais cette sensibilité plutôt de morphoanat, parce que comme je te disais, je regardais des photos de culturistes depuis tout jeune. Je devais avoir 10-11 ans. Du coup, j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Alors, j'allais pas forcément dans le détail, mais c'était plutôt la morphoanat et la biomécanique pure et dure traditionnelle, c'est-à-dire les longueurs osseuses. Ça, c'est vraiment ça qui me fascinait. Et après, quand je me suis formé sur les préférences motrices je commençais en 2015. Donc, je sentais qu'il y avait des liens à faire entre les deux, mais je ne voyais pas lesquels en fait. Et du coup, c'est en réfléchissant, c'est en essayant de. Et un jour, j'ai eu un déclic. J'ai dit, mais ça y est, c'est ça. Et donc, j'ai essayé de me rendre compte un petit peu en cabinet, de voir un petit peu si c'était vrai. Parce que c'est pas le tout d'avoir une idée. Après, il faut essayer de la valider, voir si ça concorde. Et ça matchait énormément en fait, parce que je me suis rendu compte, c'est incroyable. On a tendance à dire aux gens, faites comme ci, faites comme ça. Et en fait, ça marchait pas. Et en fait, j'avais pas fait l'association entre les deux, mais c'était d'abord la morphonate et après les préférences motrices qu'on nourrit ma réflexion pour justement associer les deux et me permettre de travailler comme ça.
On s'arrête juste 30 secondes sur la biomécanique.
Yes.
Comment tu la définirais, toi, simplement, ouais. Et puis après, on va essayer de parler un peu plus.
La biomécanique, alors si on prend la définition stricto sensu, c'est l'étude de la mécanique du fonctionnement du vivant, en fait. Bio, hein, c'est le vivant, mécanique, c'est le fonctionnement des pièces, alors que ce soit mécanique articulaire, mécanique, tout simplement les véhicules. Donc, c'est l'observation, en fait, du fonctionnement du vivant. Comment le vivant bouge. Et dedans, tu inclus plein de paramètres. Alors, tu avais reçu Arnaud Guéraud qui avait parlé de la posturologie. La posturologie fait partie prenante de la biomécanique. Tu as également l'aspect structurel, c'est-à-dire les longueurs osseuses et longueurs musculaires. Tu as, grosso modo, également le viscéral, puisque les tensions viscérales, les faciales, les aponevroses, tout ce qui est à l'intérieur du corps crée de la tension. C'est vraiment, moi, je dirais, c'est l'étude du fonctionnement du mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans le vivant quand il bouge, en fait. Voilà. Et ça regroupe tous les domaines. C'est comme ça que je définirais, je le réduirais pas à un champ, j'inclurais tout dedans.
Bah c'est très bien, comme ça explique pourquoi j'ai des invités qui peuvent être parfois dans plusieurs domaines différents et qu'on parle pas toujours de mécanique et que la psychologie alors moi la psychologie m'intéresse beaucoup, mais je pense aussi, et puis c'est facile, on fait des liens facilement, que la psychologie, ce qui se passe dans la boîte crânienne, a un impact sur la biomécanique, c'est voilà, comme tu dis, quoi, c'est le fonctionnement du vivant, et puis c'est aussi là-dedans qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui tout est en interrelation.
Voilà, le problème, c'est que pendant longtemps, et on est encore formé comme ça à l'école, hein, enfin j'ai rien contre l'école, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un raisonnement cartésien, c'est-à-dire qu'on dissocie l'esprit du corps. Toi en ostéo, tu dois le voir régulièrement, enfin tous les soignants, hein, en fait, il suffit d'être soignant et de regarder un peu les gens. Bien souvent, quand il y a un problème physique, il y a souvent un problème psychologique, ou des fois c'est dans le sens inverse, il y a souvent un problème physique, et globalement le psyché est annexé au corps. Donc le mouvement traduit quelque part déjà une manière que tu as, toi, de voir le monde ou de le ressentir. Tout dépend comment tu te places. Et in fine, on peut pas dissocier les deux. Et c'est clair que la biomécanique, c'est l'étude du vivant, mais au sens large. Ce n'est pas que la structure, c'est également le système nerveux, qu'il soit que ce soit le plan des émotions qui impacte complètement notre manière de bouger. Faut pas oublier qu'au départ, on est des animaux. Hein, et un animal, c'est quoi? C'est un système de survie et c'est on-off. C'est-à-dire j'ai peur ou j'ai pas peur. Qu'est-ce que je peux faire pour durer? Tu prends ton chien, ton chat, tu le mets dans la nature, il mange, il dort, il s'alimente, il mange, il dort, il s'alimente, il se reproduit. Ok, mais et en gros, il alterne les phases de stress et de repos, et ça impacte automatiquement son physique. D'accord? Ben nous, on est pareil, sauf qu'on a rajouté une couche cognitive supplémentaire avec le rationnel. Mais il n'empêche qu'on fonctionne toujours pareil, en fait. Le corps et le psychisme impactent complètement le corps. Donc, en consultation, on peut pas le dissocier. Hein, c'est vraiment, faut le voir au sens large. Sans se prendre pour un psychologue qu'on n'est pas. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais il faut envisager cette sphère-là, quitte à orienter le patient, peut-être parfois vers d'autres professionnels dont le métier, c'est effectivement de travailler là-dessus, quoi. Et de voir les liens qu'on peut faire entre le mouvement et le psyché.
Qu'est-ce qui fait que après t'être intéressé à tout ça, tu décides ou t'entreprends de devenir podologue et non pas kiné par exemple, ou non pas, je sais pas, médecin, préparateur physique, je sais que t'es dans la préparation physique, mais tu l'as fait après ton diplôme de podologie.
Écoute, c'est tout un parcours de vie. Comme je te disais, j'étais sportif de haut niveau. Quand t'es athlète de haut niveau à mon époque en école de podo, il n'y avait pas de double cursus. Donc quand j'ai fait prépa kiné, au départ je suis parti sur une prépa kiné. J'espérais rentrer en école de kiné en bénéficiant de mon statut de sportif de haut niveau. Le problème, c'est que mon sport n'étant pas olympique à l'époque, le karaté pour le citer, on n'avait pas beaucoup de places dans les écoles de kiné. Il n'y avait qu'une seule place. Et il s'est trouvé que je me suis retrouvé au championnat de France en concurrence avec un gars. Je vais en quart de finale. On va en prolongation. Il gagne 1-0, il va au monde et il fait champion du monde. Donc lui voulait être kiné, moi aussi, c'est lui qui a eu la place, c'est pas moi. Du coup, j'ai dû retaper, j'ai refait une prépa kiné podo. Clairement, le degré de complexité des écoles de kiné, c'est-à-dire que mener un double cursus, c'est-à-dire t'entraîner, moi je m'entraînais de manière bicotidienne, c'est-à-dire matin et soir, plus la prépa qui demande un temps quasiment comme beaucoup de prépa, c'est-à-dire faut te concentrer à temps plein, c'était impossible pour moi, c'est-à-dire je pouvais pas faire kiné en même temps, c'était compliqué. Donc je me suis dit, je vais voir si je peux pas partir sur podo, je vais me renseigner sur le métier de podo. Et finalement, le métier m'a attiré, c'est comme ça que j'ai... Vas-y, je t'écoute.
Mais comment c'est la podologie? J'avais demandé à Arnaud et on en avait un petit peu discuté, j'ai eu le temps d'oublier, désolé, mais sur le parcours, c'est médical, c'est une école à part, c'est le comment
alors,
ça se passe.
À mon époque, c'était des écoles privées. Alors, t'avais un concours d'entrée qui était pas très difficile, hein, comparé au concours d'entrée de kiné, c'était quand même beaucoup plus facile. T'avais en gros que de la bio, donc si t'étais pas complètement un guignol, ça passait. C'était après, une fois où t'étais à l'intérieur de l'école, où il y avait pour le coup beaucoup plus de connaissances à amasser et où c'était vraiment là beaucoup plus dense. Mais c'était d'abord des écoles. Maintenant, à ma connaissance, il y a encore des écoles, mais tu vas aussi avoir des équivalences avec ce qu'on appelle la PACES, et tu sais, c'est la première année de médecine, grosso modo, et selon ton classement, tu feras, je dis une bêtise, tu partiras sur médecine ou à terme, pourquoi pas chirurgien, mais ça sera bac plus 7 ou plus 8. Ou alors, selon ton classement, tu vas sélectionner, en fait, les places qui restent. Alors, moi, je suis pas un grand fan de ça parce que ça va faire des pharmaciens ou des podos ou des kinés un peu au rabais, des gens qui auront fait ça par défaut. Après, ça veut pas dire que moi, tu vois, j'ai pas eu kiné, je suis parti sur podo, mais je me suis quand même renseigné avant. Si ça m'avait pas plu, j'aurais pas fait, hein, j'aurais fait autre chose. Donc, mais c'est plutôt des écoles. Il y a encore des écoles. Il y a également aussi des facs de médecine qui vont s'y mettre. Après, je te donnerai pas plus d'infos parce que je suis pas spécialiste là-dessus. Ouais. Je t'avoue, j'ai pas trop fait attention à comment ça se passait maintenant. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'apprentissage et l'évolution. Alors là, s'il y a des profs de podo, je vais pas me faire des amis. C'est que l'apprentissage en école est encore extrêmement archaïque et que, tout ce qu'on parle, la morphoanate, les préférences motrices, etc., on en est à 10 000 km, là. Enfin, on est encore sur du, un genou, ça fait de la flexion-extension. Et c'est comme ça chez tout le monde. Le centre de gravité, il passe là, il passe là. Enfin, en gros, ça, c'est valable sur les statues ou les morts, mais tu vois, c'est. Bon, après, ça va évoluer certainement, mais je caricature, j'aime bien aller dans l'extrême pour passer le message, mais globalement, c'est ça. Et donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Voilà, mais c'est comme ça, en tout cas, que moi, je suis arrivé podo.
Ok, donc toi, à ce moment-là, t'es déjà au courant de tout ce qui se passe en termes de morphoanatomie, mais les préférences motrices, c'est pas encore...
Non, les préférences motrices. Moi, je fais partie d'une en tant que podo qui s'appelle l'Association Nationale des Podologues du Sport. Je leur passe le petit bonjour. Grosso modo, c'est des associations comme les kinés du sport et tout. On est 120, 130 à travers la France. On se regroupe régulièrement pour faire des formations et discuter d'un sujet. Alors, les sujets sont divers et variés. Et il y a eu une fois où je me suis regroupé à une formation, on m'avait parlé d'un truc sur des chaînes musculaires, on appelle ça chaînes musculaires GDS, c'est-à-dire des chaînes préférentielles qu'on utilise pour se stabiliser et pour bouger dans l'espace, dans le mouvement en utilisant le mouvement au quotidien. Et j'ai un copain qui me dit, écoute, viens voir les préférences motrices, c'est génial, essaye et tout. Je dis, ouais, pourquoi pas, on va voir. Et je suis allé faire le niveau 1, donc des préférences motrices. À l'époque, c'était le laboratoire Voldalen, c'était Cyril Jean qui faisait ça. Et ça a complètement chamboulé en fait ma façon de voir l'individu, à la fois sur le plan moteur et après quand j'ai continué à progresser dans ma formation et sur la connaissance sur le plan cognitif. C'est-à-dire que je me suis revu moi, alors pas 20 ans mais 10-15 ans avant quand j'étais sportif de niveau, où mon coach me donnait des consignes, c'est-à-dire l'idée c'est on me disait voilà, la bonne technique pour performer c'est comme ça, sauf que moi quand j'étais en situation de difficulté au moment où il fallait faire la différence dans le money time, jamais ça sortait. Et ce qui sortait, c'était parfois ce que je n'avais jamais travaillé ou ce qui était naturel pour moi. Si je te prends un exemple, pour ramener dans mon domaine, moi, un de mes spéciaux en karaté, c'était un coup de pied circulaire à la tête. Ça partait très facilement. Je n'ai jamais eu trop à le travailler et c'est quelque chose qui était vraiment naturel pour moi. J'avais d'autres techniques, des techniques en un temps, en deux temps, ce qu'on appelle en un temps, deux temps, c'est-à-dire absorption, remise, où il a fallu que je les travaille. Et quand je devais faire la différence, c'était jamais celle-là qui sortait. Pourtant, l'entraînement, elle était superbe devant la glace et tout, c'était très beau, machin. Mais quand j'étais en difficulté, quand mon cerveau avait besoin quelque part, et il avait ses sens au maximum,
le réflexe.
Ça sortait pas. Et en fait, là, j'ai réussi à mettre en fait un comportement, un mot sur une expression. L'expression motrice, c'est ça. C'est que la manière qui est la tienne de fonctionner, elle est très bien pour toi, mais elle n'est pas forcément bonne pour moi. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de déterminer quelles sont les bonnes préférences pour moi pour bouger en tenant compte de ma préférence, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça a matché, parce que je me suis reconnu là-dessus et aussi parce que dans mon quotidien, je voyais des gens dans lesquels mon approche biomécanique pure, c'est-à-dire structurelle, ça les soulageait, mais des fois, non. Je comprenais pas, en fait. J'avais des limitations. Je me dis, merde, je comprends pas, ça marche pas. Parce qu'il y avait un élément que je n'avais pas pris en considération. C'était cet aspect cognitif, cet aspect cérébral. C'est-à-dire que si je prends souvent ce parallèle-là, tu peux avoir une Formule 1. Donc, très bien, c'est une seule voiture. Si toi, tu montes de la Formule 1, tu veux la conduire d'une certaine manière. Donc, on va dire que toi, t'es le système nerveux. Moi, si je monte à ta place, je vais la conduire d'une autre. Donc, on utilise la même structure. Selon la variable d'ajustement, ce sera le cerveau, donc le pilote de la Formule 1, en fait. Donc, il va falloir qu'on nuance en fonction, tu vois. Eh ben, c'est la même chose. Donc, grosso modo, eh ben là, quand j'ai vu ça, j'ai compris tout un tas de choses. Et en plus, comme il y avait des liens vers la préparation physique, vers l'observable de l'humain, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je t'avoue que je suis tombé dedans et je sais pas faire les choses à moitié. Et j'ai essayé de creuser autant que possible le sujet. J'ai lu tout ce que je pouvais lire. Et voilà quoi. Et ça me fascine, ça me passionne vraiment au quotidien. Et c'est comme ça que j'ai développé, que j'ai essayé tout du moins développer mon intérêt, ma connaissance sur le sujet. Et après, un peu plus quand j'ai commencé à digérer un peu ses préférences, j'ai commencé à ressentir qu'il y avait des contacts, des notions, on va dire proches entre la morpho anate. Et je me suis dit, je peux pas. Il y a forcément quelque chose, une porte d'entrée. Il fallait juste arriver à comprendre le concept en fait. Et une fois que j'ai eu un jour, j'ai eu un déclic. Et du coup, là, ça a matché pour moi. Voilà.
Ok. Je me suis noté quelques petits trucs pour te demander.
Ok. Ouais, pas de souci.
Alors, comment? Parce que on a parlé. On va pas revenir là-dessus sur la préférence motrice et le fait d'être automatiquement. On préfère aller d'un côté ou de l'autre, ou on se place plus sur l'avant, à l'arrière.
Exactement.
Comme ça qu'on préfère. D'où ça vient ça? Parce que j'ai cru voir dans un de tes articles, parce que bon, j'ai dit que j'ai pas regardé du tout, mais j'ai quand même regardé un petit peu.
Un petit peu quand même.
Oui, légèrement quand même. Bon, histoire d'être tenu au courant. Que autant la morphonatomie c'était quelque chose d'acquis. C'était inné ou c'était
héréditaire.
Héréditaire, voilà. Mais par contre. Les préférences motrices, non. Alors, d'où ça vient et pourquoi on va être plus droitier que gaucher? Je ne sais pas si on peut. Il y a une réponse à cette question. Et pourquoi on va être plus allé sur l'avant que sur l'arrière? Est-ce qu'il y a une origine quelque part?
Non, on n'a pas la réponse. Alors, si tu l'étude des préférences motrices au sens où on les a déterminées et définies tous les deux, c'est assez récent en fait. Hein. Ça date des années 80-90. Peut-être pour expliquer un petit peu la genèse, pour que les gens comprennent, j'ai pas sorti ça de mon chapeau. Dans les années 80-90, en Europe, il y avait eu un courant aux États-Unis dans les années 70 qui parlait déjà un petit peu de ça, mais on va rester sur l'Europe. Deux entraîneurs de volley, Ralph Hippolyte et Bertrand Terolaz, qui étaient des entraîneurs de volley de haut niveau, ont perçu des différences dans l'expression d'une même consigne. C'est-à-dire qu'ils avaient des athlètes, et selon le mouvement qu'ils leur demandaient de faire, ils se rendaient compte que chacun n'exécutait pas de la même manière. Donc du coup, ils leur ont demandé, grosso modo, à chaque fois, d'exercer un mouvement, d'essayer de faire tel que eux l'envisageaient. Sauf que ça ne marchait pas en fait. Ils constataient une notion des blessures, ils constataient parfois une perte de motivation, ils constataient parfois une contraction, enfin bref, quelque chose qui n'était pas naturel. Ils ont commencé à s'interroger sur le fait que est-ce que chacun n'a pas une manière d'exécuter un mouvement donné qui lui est propre. Et là, ça a été la porte ouverte en fait à des recherches, à des liens avec les neurosciences, alors plutôt aux neuroscientifiques américains. Et ils ont déterminé des profils, ce qu'on appelle des profils moteurs, c'est-à-dire des manières de s'équilibrer dans le mouvement, de percevoir l'environnement. Et ces profils moteurs, ils les ont fait également évoluer pour créer des connexions avec des profils cognitifs. C'est-à-dire qu'en gros, si je devais caricaturer un petit peu, je marche comme je pense ou comme je vois le monde. Et là, ils ont appelé ça l'approche action type. Un peu plus tard, donc dans les années 2000, Cyril Jeanne, qui est un PhD en sciences du sport et qui est issu lui-même du monde de l'athlétisme, avait vu également des similitudes sous cet aspect-là. Il parlait de terrien aérien, donc des gens qui avaient besoin de mettre de la triple flexion, donc quelqu'un qui déclenchait plutôt le mouvement vers l'arrière en s'équilibrant avec des chaînes musculaires plutôt dites antérieures, et des aériens qui, eux, au contraire, se déséquilibrent vers l'avant en utilisant des chaînes musculaires qui sont plutôt, elles, postérieures. Et donc, il avait été déterminé deux pôles, on va dire, encore une fois, c'est comme la main gauche, la main droite, il n'y a pas que deux profil, mais c'était des tendances qui permettent d'expliquer les choses. Et il voyait des choses, il voyait par exemple qu'à vitesse égale, un terrien passait plus de temps en contact au sol, alors qu'un aérien passait plus de temps en l'air comparativement à l'appui au sol. Et du coup, il a commencé à creuser, à chercher, à valider différentes sciences, et se sont rassemblés, se sont, on va dire, regroupés, et ça a matché en fait. Ils ont vu qu'il y avait plein de choses ensemble en commun. Et donc, il y avait donc Cyril Jeanne, c'était plutôt le laboratoire Volodalen, et les autres, c'était plutôt Action Type. Après, ils se sont, on va dire, séparés, chacun a évolué de son camp, mais dans son camp, si j'ose dire, mais globalement, il y a des tendances, des notions qui se rapprochent. Après, il y a eu des variables d'ajustement. Donc moi, j'ai commencé par Volodalen, et une fois que j'avais fait le cursus Volodalen, je suis allé me former chez Action Type pour essayer de comprendre un petit peu comment eux étaient quelle était leur approche à eux, et puis pour essayer, c'est justement d'avoir, encore une fois, c'est plus d'outils, si j'ose dire, à ma disposition, et de comprendre la genèse du truc. Pour répondre à ta question, la morphonatomie, c'est plutôt effectivement héréditaire, c'est la somme du père et de la mère, on va dire grosso modo, qui donnera des caractéristiques physiques et morpho-anatomiques. Il y a évidemment l'environnement épigénétique qui va faire que ça va s'exprimer plus ou moins, mais en gros, c'est plutôt très héréditaire. Les préférences motrices, il y a certainement une part d'hérédité, on peut pas l'exclure. Hein. Le système nerveux, quand il se conçoit, c'est quand même à la base parce qu'il y a eu un gamète père et un gamète mère qui se sont réunis. Néanmoins, comme on sait que c'est durant les premières semaines de la vie intra-utérine où les premiers mouvements favorisent certaines connexions motrices qui détermineront après la manière que tu auras de t'équilibrer, On ne sait pas encore pourquoi quand tu es terrien ou tu es aérien à la naissance. Mais c'est pas parce que tu as un père ou une mère qui sont tous les deux terriens que tu seras aérien ou vice versa. Que tu seras, pardon, terrien toi-même ou vice versa. Oui. Il y a certainement une part héréditaire. On ne sait pas à quel point. Mais il y a aussi une part dont on ne sait pas aujourd'hui répondre. On ne sait pas ce qui a fait que tu seras terrien ou aérien. On n'arrive pas encore à l'expliquer. Mais on y arrivera peut-être un jour. Effectivement, je pense que plus on va connaître le génome, plus on va peut-être comprendre aussi. Et puis après, selon l'environnement dans lequel tu évolues, est-ce que le bébé bouge ou pas? Tu sais bien, ouais, ouais. Voilà, tu vois, la forme des corps se détermine aussi dans le mouvement, dans la vie intra-utérine. Plus un bébé bouge, plus il va creuser ses articulations, plus il va avoir tendance à avoir certaines formes. Moins il bouge, plus parfois, des fois, on retrouve ça chez les gamins avec des malformations luxation de hanche, parce que comme il n'a pas bougé, le cotyle, tu sais, ne s'est pas creusé avec la tête fémorale. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, le mouvement est essentiel. Et clairement, il y a un lien avec cette expression motrice dès la vie intra-utérine. Mais je peux pas te répondre avec certitude sur qu'est-ce qui fait que tu seras terrien, qu'est-ce qui fait que tu seras aérien.
Ok. C'est quand même pas mal intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce qui est comprendre le pourquoi et comprendre comment on est arrivé jusque là. Et ça l'explique pas mal. Pas en totalité, puisqu'effectivement, je pense qu'il peut y avoir plusieurs hypothèses entre, dans le ventre de la maman. Est-ce qu'il y a eu des stimuli? Est-ce que, la part d'hérédité, combien de pourcentage, l'environnement aussi, parce que peut-être que lorsque le nouveau-né naît, je sais pas, l'environnement et les premiers jours vont faire que il va peut-être plus. Bon,
excuse-moi, je te coupe, je rebondis sur quelque chose que je veux dire et qui peut être intéressant. J'en avais discuté une fois avec Ralph Hippolyte, qui est un des deux fondateurs d'Action Type, et je m'interrogeais sur l'histoire. Je lui ai dit, ok, on est tous capables de faire du terrien ou de l'aérien, mais on a une appétence pour l'un ou pour l'autre. Je lui disais quand même, globalement, quand on se réfère toujours à cette histoire d'anthropologie, et quand on essaie de comprendre un peu l'histoire du vivant, est-ce qu'on pourrait essayer de savoir s'il n'y a pas une des deux marches qui a été dominante? Et la remarque qui avait été la sienne, il m'avait dit, écoute, globalement, on pourrait supposer que la marche terrienne a été peut-être la première qu'on a réussi à développer. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on est issu du règne animal et on a été essentiellement pourvu d'un cervelet et de quelque chose qui était juste là pour gérer des besoins primaires d'équilibre, qui est situé plutôt à la partie postérieure du cerveau et donc qui est plutôt dans la notion de prudence, de précaution, pas prendre de risques. Et le terrien, quand tu le regardes marcher, c'est quelqu'un qui place ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire sa boîte crânienne, sur l'arrière de ses appuis. Et quand il marche, il met d'abord le contact talon-sol, il tâte le sol est ferme, il avance. Step by step. Et faut pas oublier que le cerveau, il est avant tout là pour gérer le mouvement, en fait. Et du coup, à chaque fois qu'il bouge, il a conscience qu'il crée un déséquilibre, donc que potentiellement il se met en danger, qu'il peut mourir, il peut chuter, et il va pas le faire n'importe comment. Donc la marche terrienne pourrait potentiellement être la première qui soit apparue. C'est une hypothèse, on en avait discuté ensemble, et j'avais trouvé très intéressant sa remarque. Pourrait être la première qui soit apparue. Et c'est par la suite, avec la révolution cognitive, le développement du lobe frontal, avec le front et le crâne qui a commencé à se développer, où on a développé ce qu'on appelle la marche de l'aérien. Et d'ailleurs, dans les profils moteurs, nous cognitifs, quand on essaye de comprendre un peu comment fonctionne l'aérien, il utilise plutôt son lobe frontal. Et du coup, l'aérien fait tout l'inverse. Pour le coup, il projette sa tête, ce qu'il a de plus cher, vers l'avant, d'abord, donc dans le vide, si j'ose dire, et c'est les jambes qui rattrapent, tu vois. Donc, c'est deux schémas de fonctionnement différents avec des chaînes musculaires complètement opposées. On a ces deux-là, mais on en a une qui prédomine sur l'autre, et la marche du terrien pourrait être la toute première à être apparue sur Terre quand l'homme a commencé à se redresser de manière à pouvoir interagir et libérer ses mains. Ça pourrait être, c'était une de ces hypothèses. Ça n'a pas de valeur scientifique, ce que je te dis, mais, c'est une des hypothèses de Ralph Hippolyte, qui est pourtant, pour le coup, quelqu'un aussi d'extrêmement passionné et de très intéressant.
Et est-ce que peut-être aussi on pourrait envisager on peut être plus terrien ou plus aérien en fonction de nos origines géographiques. Ça plairait, je pense, à Frédéric Delavier, de se dire, si on est plus né dans l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, ça voudrait dire que nos ancêtres, ils avaient dû soit se déplacer, ou alors ils avaient dû produire de la chaleur, etc., etc. Et que ça pourrait expliquer aussi que certains peuples seraient plus aériens que terriens. Sans faire encore une fois de jugement de valeur, on sait très bien que les marathoniens, les plus grands marathoniens, on sait quelle morphologie ils ont, mais on sait aussi d'où ils viennent. Et ce qui s'explique aussi Alors, qui explique leur grosse capacité pour courir longtemps, quoi.
C'est une très très bonne question. Actuellement, Cyril Gindre du laboratoire Volodalen s'interroge également sur ce qu'il appelle les morphologies. En gros, on va prendre deux extrêmes. Le terrien qui a besoin de beaucoup de flexion d'ancrage au sol pour être bien stable. Ça rejoint plutôt tous ceux qui viennent de Nouvelle-Zélande et qui font le haka. Si tu regardes la technique du haka, c'est de la flexion d'ancrage au sol, et exactement très ancré au sol. Si tu prends les Maasai, qui sont un peuple d'Afrique très fin, très longiligne, parce que justement pour résister à cet esprit de chaleur, ils ont une quantité de peau un peu plus grande et ça nécessite d'avoir un corps longiligne pour pouvoir évacuer la chaleur plus facilement. Eux, leur danse traditionnelle, c'est de faire du rebond. Il faut regarder sur Internet, c'est incroyable. Les gars, ils ont une détente sèche d'un mètre et il y a une danse traditionnelle qui est typique là-dessus. Donc, il s'est interrogé sur ce lien avec l'aérien et le terrien. Moi, j'apporterais quand même une petite notion, une nuance à ça. C'est-à-dire que quand tu regardes chez les... Ça, c'est des cultures traditionnelles. Si tu regardes le haka, les Néo-Zélandais qui font les 15, qui font le haka, tu arrives quand même à voir... certains qui ont une tendance terrienne et d'autres qui ont une tendance aérienne. C'est-à-dire qu'ils ont les pattes écartées, ils sont ancrés au sol, mais il y a très peu de flexion de genoux et ils sont très raides. Ça veut donc dire qu'en fait, ils font de la flexion, mais ils sont très raides. Et pareil, si tu prends l'exemple des Africains, tu as beaucoup d'Africains qui performent en étant aériens, donc plutôt longiligne et plutôt du rebond. Mais tu as également des coureurs, si tu prends par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu Paul Tergat, il y a de ça 10-15 ans, qui était le plus grand rival de Gebrselassie, c'est un terrien. Si tu prends Gebre Selassie, c'est un aérien. Si tu prends Kipchoge qui a gagné, qui a battu le record du monde, c'est un aérien. Si tu prends Kitata qui a battu Kipchoge récemment, c'est un terrien. Donc pour une même morphologie, il y a des nuances d'expression motrice. Donc on peut se poser des questions, rien n'empêche. Effectivement, on pourrait se dire si le vivant est à ce point intelligent, parce que si on est encore là, on peut se dire que le vivant, il n'y a pas d'inconnu. Ce qu'on suppose être de la chance ou du hasard, c'est juste qu'on ne comprend pas le système. Mais
une sélection.
Il peut y avoir des liens, exactement. Mais je ne mettrai pas 100% sûr, parce que quand tu regardes l'expression motrice en fait de l'un ou de l'autre, même dans des mouvements naturels de la marche, donc ce qui est quelque chose qu'on ne t'a pas influencé, on t'a pas appris à marcher, tu t'es mis debout, puis tu as marché comme ça venait. Le haka, ouais. Tout ça, c'est indépendant. La technique gestuelle également, faut s'en méfier parce que c'est très coach dépendant. Mais en revanche, des mouvements simples, tu vois quand même des nuances. Mais Cyril Gindre de Volodalen, lui en parle. Moi, je pense qu'il a pas tort sur certains aspects, enfin à mon petit niveau. Hein, me comparer à lui, mais je pense que c'est peut-être encore plus fin que ça. Et que du coup, on voit quand même dans le haka, je suis capable sur te prendre de 15 gars, tu vois clairement qu'il y a des gars, le fait de faire de la flexion et de l'ancrage au sol, c'est pas évident pour eux. Ils ont les pattes écartées, ils ont des grosses cuisses, ils ont très peu de flexion de genoux. Et ça, c'est pas très terrien. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a certainement chez les aériens, les Maasai, la même chose en fait. Donc ouais, je pense qu'il y a encore plein un champ des possibles, de découvertes énormes. Cyril, il dit d'ailleurs, il le dit très bien, il dit il y a encore 800 ans d'études à faire dessus, peut-être même encore plus. Et c'est ça qui rend les choses fascinantes en fait, c'est que quand à chaque fois que tu reçois quelqu'un, c'est d'essayer moi c'est comme ça que je le vois, c'est d'essayer de comprendre, de faire ce lien entre ce corps qu'il me montre, qui pour le coup ne le trahit pas, hein, il me montre sa force, sa faiblesse, longueur musculaire, longueur osseuse, il y a pas de surprise si tu regardes, c'est présent. Lui et la préférence motrice qui elle est beaucoup plus nuancée, plus cachée, toi, qui est au plus profond de lui, c'est-à-dire au fond de sa boîte crânienne. Et là, on essaye de faire des liens. Donc, tu parles avec lui, tu le testes, tu le mets en situation. Moi, j'aime beaucoup les regarder bouger. J'ai beaucoup de data, tu vois. J'ai eu un tennisman récemment professionnel. Je lui ai demandé de m'envoyer plein de vidéos de lui en train de bouger. Et après, en cabinet, je regarde si ce que j'ai vu quand il jouait. Est vraiment ce qu'il est en fait, tu vois. Et je marie ça avec sa morphologie, c'est fascinant. Et tu peux même eux, le gars quand ils sont, enfin tu vois les sportifs au niveau, c'est des Formule 1, ils se connaissent très bien. Quand tu leur parles un truc et que tu arrives à mettre le doigt sur quelque chose que eux-mêmes ont ressenti sans forcément le comprendre, tout de suite ça s'allume en fait, tu vois. Ils disent ah ouais tiens ça c'est pas mal et tout, et ils essayent et c'est incroyable. Donc c'est vraiment ça qui est fascinant. Et moi, c'est cette alliance entre les deux que je trouve dingue, quoi. À chaque fois, je m'émerveille, je me dis, c'est fou, quand même, et il y a certainement plein d'autres choses encore, et enfin, je pourrais faire que ça.
Alors, deux choses, il y a des tests, donc, un paquet de tests, tu as dit plus de 200, ouais. Là, pour voir, si on était, quelles étaient les préférences motrices, bon, on va pas les détailler, etc., mais, une fois que tu as identifié, parce que là, jusque-là, c'est la compréhension de pourquoi on bouge, etc., et mieux se connaître et puis s'adapter. Et là, je veux passer sur la partie s'adapter maintenant. C'est que une fois que tu as mis en évidence la préférence motrice, la morphoanatomie, ok, tu es comme ça, ça explique ceci, ça explique cela. Après, c'est quoi l'étape suivante? C'est quoi l'utilité de tout ça? Est-ce qu'on est dans pour améliorer la performance? Putain, c'est incroyable. C'est quoi? Non, mais bon.
SOS Détresse Amitié, hein, c'est... bonjour.
bref, je suis standardiste aussi. Bon. Standardiste qui raccroche, hein, pas un très bon standardiste.
Il est bien payé, standardiste, il est pas bien payé, il veut pas bosser.
Non, il se révolte. Donc, une fois qu'on a identifié tout ça, quels sont les... Est-ce que c'est... Parce qu'on peut rien y faire, tu vois, on l'a dit tout à l'heure, bon, c'est comme ça, on va pas pouvoir changer ta nature, t'es ceci, ben, t'es toujours préférentiellement de ce côté-là plutôt que celui-là. Comment on adapte, je sais pas, derrière, il y a des changements d'entraînement pour essayer d'améliorer les performances, on adapte, on fait différemment. Quelle est l'utilité pratique, en fait, pour le sportif?
Ah, écoute, énorme, très intéressante ta question. Là, j'adore. Globalement, en fait, la morpho-anatomie, bon, très simple. Tu as raison, tu as bien résumé. Durant la gestuelle spécifique, si je la sors de la musculation, parce que la musculation peut faire le choix d'exercer un mouvement d'une manière ou d'une autre, faire l'exercice ou pas. Donc là, c'est un peu différent. Quand tu joues au foot, quand tu joues au tennis, etc., c'est avant tout dépendant de ce que te propose l'adversaire. Donc, que t'aies des segments longs ou des segments courts, l'adversaire, il s'en fout. En fait, il va pas te demander si ton fémur est propice à courir en flexion ou en extension. Donc, la morpho-anatomie fait surtout sens dans tout ce qui est prévention, prophylaxie, pardon, et préparation physique, dans le choix de tes exercices, dans la manière de les exécuter, pardon, et dans la manière de répartir éventuellement la contrainte. Donc là, la morpho-anatomie, pour moi, elle impacte essentiellement avant le spécifique, dans des sports autres que la musculation. D'accord ? Une fois que tu as compris ça, dans la manière d'exercer les mouvements en musculation, c'est la même chose. Si je te prends l'exemple du squat, les préférences motrices, en quoi elles vont impacter ? Si je reprends encore une fois mes deux extrêmes, il y en a bien plus, hein, mais ce n'est pas deux profils, mais je prends deux profils opposés pour encore une fois faire parler aux gens comme la main droite, la main gauche. Si tu es aérien, je m'équipe mieux sur l'avant. Si tu es terrien, je le fais plutôt mieux sur l'arrière. On pourrait supposer donc que ceux qui aiment squatter bas, donc ce qu'on dit cul par terre, ont une appétence pour de la triple flexion de membres inférieurs, donc aiment fléchir, et du coup seraient plutôt terriens. On pourrait aller dans ce sens-là. À l'inverse, ceux qui aiment avoir des petites talonnettes avec des chaussures un peu d'haltéro et être versés sur l'avant seraient plutôt aériens. Pourquoi ? Parce qu'en étant sur l'avant, ils activent une chaîne musculaire qui leur permet de se stabiliser sur l'avant. Et du coup, quand ils vont fléchir, ils sont déjà stables avant d'exécuter le mouvement. La préférence motrice, elle s'enclenche à l'amorce du mouvement. C'est d'abord, je crée un déséquilibre, je me stabilise. C'est une des priorités du vivant. Hein. Après l'énergétique, l'équilibre, c'est la deuxième priorité du vivant. Et après ça, une fois que je suis stable, là, je vais pouvoir générer mon mouvement. Donc, dans la prévention, dans la manière de proposer les exercices à tes coachés ou éventuellement à tes athlètes, eh ben tu vas pouvoir moduler les exercices. Si tu as une préférence, par exemple, je reprends l'exemple du développé couché, tu as des gens qui ont certes une morpho-anatomie propice ou pas à fléchir et pousser en développé, mais tu as aussi des gens qu'on va appeler, des gens qu'on appelle nous des verticaux, c'est-à-dire qu'ils interagissent mieux avec leur environnement quand leurs membres, c'est-à-dire les bras ou les jambes, sont proches de l'axe du corps. Donc en gros, moins les coudes sont écartés du corps, plus ils sont forts et plus ils sont équilibrés, bah cela, tu auras peut-être tendance à leur dire quand tu fais du développé, travaille avec les mains un peu plus resserrées de manière à pouvoir pousser plus fort. À l'inverse, ceux qu'on appellera nous horizontaux s'équilibrent mieux quand ils écartent les bras et les jambes par rapport à leur tronc. Cela, on pourra leur dire, essaye de prendre un petit peu plus large, marié évidemment à la morpho-anatomie. Si tu as des bras très grand, il faudra nuancer tout ça, mais c'est en ça que les deux interagissent, tu vois.
Exactement. Pré-étirement, c'est ça, c'est
pour ça. Et ouais, exactement. C'est pour ça qu'il faut que c'est très fin. Et c'est ça où c'est très fin. Donc ça, c'est pour la préparation physique, c'est de prendre on peut faire ça sur tous les exos. Je t'ai pris deux exemples types, mais on peut faire ça sur tous les exos. Une fois que tu vas dans le sport, donc là, on va aller sur des sports peut-être plus consensuels, donc le tennis, la course à pied, ou même tout simplement le foot. Une fois que tu connais tes préférences, comme je te l'ai dit, ta morpho-anat, tu peux pas influer dessus, parce que là, elle est ce qu'elle est, effectivement. Mais dans la prévention des blessures, déjà dans ta préparation physique, tu as déjà pu faire tous les exos qui allaient dans ton schéma, ou tout du moins nuancer éventuellement les zones faibles que tu avais. Et c'est là où les préférences motrices vont prendre sens. Parce qu'en fait, les préférences motrices, c'est à la fois à l'annexer à une manière de s'équilibrer et de bouger, mais c'est aussi à une préférence visuelle, en fait. C'est-à-dire que si je te prends le terrien, il a une préférence visuelle basse. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le mouvement en dessous de l'horizontale, il a tendance à voir plus facilement le mouvement que quand ça se passe au-dessus de l'horizontale. L'aérien, c'est l'inverse. Ça ne veut pas dire que tu vois pas en haut ou que tu vois pas en bas. C'est juste que quand le mouvement, la vitesse, tout ce qui se passe autour de toi provient dans ces zones-là, c'est plus facile. Eh ben, il va falloir, alors naturellement, ton cerveau, globalement, aime aller chercher ce qui est facile pour lui. Par contre, parfois, l'environnement, le stress vont changer ça, ou parfois même, quand c'est un nouveau sport, tu ne sais pas comment tu fonctionnes. Et le fait de découvrir ça, ben, tu vas essayer de montrer aux gens comment ils peuvent se positionner le terrain, comment ils peuvent se positionner au mieux pour prendre l'information plus rapidement. Et donc, s'ils prennent l'information plus rapidement, ils vont se coordonner plus rapidement. S'ils se coordonnent plus rapidement, eh ben, ils seront beaucoup plus efficaces et ils seront capables de durer beaucoup plus longtemps. pour te prendre un exemple, après je te laisserai peut-être si tu as d'autres questions. J'ai travaillé moi avec des handballeuses pro pendant plusieurs années et j'avais cartographié toutes les joueuses du championnat de France en fait, toutes celles qu'on allait rencontrer. Et l'idée c'était non pas de dire telle est comme ci, telle est comme ça, c'était de dire regarde, elle aime bouger comme ceci ou elle aime bouger comme cela, comment je peux la gêner ? Et ben en fait, on avait essayé de dégager des tendances, deux trois choses. Donc chacune des joueuses de mon équipe avait vis-à-vis avait des notions de son vis-à-vis direct pour essayer de l'embêter, pour faire en sorte qu'elle ne tire pas selon ses préférences, pour essayer de faire en sorte qu'elle ne voit pas ses camarades avec son œil moteur préférentiel. On a un œil qui domine l'autre par rapport à la prise d'information visuelle en termes de mouvement. Et ben pareil, selon l'endroit où tu te places, on a une épaule motrice, on a une hanche motrice. Tous ces éléments-là, en fait, tu peux influer dessus. Encore faut-il les connaître, et c'est ça qui est incroyable. Et en sport de combat aussi, c'est énorme. Ton œil moteur, celui qui capte le mouvement, il a annexé à un profil, à une manière de s'équilibrer. Si tu impactes cet œil, tu impactes tout le profil. Donc si tu regardes, il y a un combat pour les fans de boxe le week-end dernier, il y a un combat qui a été abandonné au 8e round par le gars, il a une fracture de l'orbite autour de l'œil. Si c'est l'œil moteur qui est impacté, c'est très embêtant parce que ça veut dire que du coup, il a dû percevoir le mouvement avec l'autre œil. Et du coup, in fine, ça l'a obligé à se coordonner complètement différemment, qui était peut-être pas sa préférence. C'est pas pour ça qu'il a perdu. Ce que je veux juste te dire, c'est que, en plus, ça complique la tâche. Évidemment que si t'as une fracture orbitale, même de l'œil qui n'est pas ton œil moteur, c'est problématique, on va t'arrêter. Mais si on t'arrêtait pas, et si dans un système de survie, tu devais continuer, eh ben, t'auras plus de chances de continuer à performer que si c'était l'œil qui était ton œil moteur qui était impacté. Voilà, je te délivre plein d'informations un petit peu brutes de décoffrage, mais c'est pour comprendre que c'est très fin, en fait, ça impacte complètement la motricité, en fait. D'accord ? Donc il faut essayer de faire ressentir et c'est instantané.
Je pense que ça répond un peu à la question qui me venait en tête, à savoir parce que c'est variable comme toujours, et puis c'était la question que j'avais posée à Michael Gundil aussi sur toutes les nouvelles recherches et les nouvelles découvertes sur l'entraînement, sur les améliorations, etc. C'est que est-ce qu'au final on a fait le plus gros des découvertes en gros, et c'est que tout ce qu'on découvre maintenant ou toutes les petites améliorations, est-ce qu'au final pour être vulgaire, c'est pas un peu comme enculer les mouches, si je suis désolé.
Je comprends, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, tout à fait.
Et c'est de se dire, bon, mais est-ce que finalement on n'est pas sur des mini trucs, etc. Et alors là où je te dis que j'ai l'impression que ça répond un peu et que ça répond par la négative, c'est quand tu me dis, ben en fonction de l'œil, pour le coup, si tu adaptes, tu peux faire des améliorations qui sont, qui sont très grandes, quoi. Et c'est ça. T'as des exemples, oui, où justement, ouais, par rapport aux préférences motrices et à la morphoanatomie, des modifications d'entraînement, il y a eu un boom de performance sur le sport, sur l'athlète en question.
Je te prends l'exemple type. J'étais avec une gardienne, elle s'appelle Lucie Safarova. Bon, elle est partie maintenant, je peux en parler, mais elle était au Paris 92, gardienne de l'équipe tchèque. C'est une gardienne qui était œil moteur droit, donc qui était assez grande. Les gardiennes de hand en filles, en général, elles sont grandes, soit elles sont un petit peu fortes, non pas fortes, mais avec un peu plus de corpulence, ça fait une plus grande surface pour masquer le but aussi, donc c'est pas inutile. Elle avait un œil moteur droit. Quand je regardais les statistiques de prise de but ou les buts qu'elle prenait le plus, c'était tout le temps à gauche, en fait. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais voir un match, elle a pris 23 buts, elle a pris 18 à gauche. En haut à gauche. Et donc, je l'avais pas encore testé. Donc, j'étais allé les voir. J'avais pris des notes sur un petit calepin selon les joueuses. Et j'avais déterminé des tendances, ou du gars, en tous les cas, des choses qui me paraissaient faciles pour elle et d'autres qui étaient plus compliquées. Quand je l'ai rencontrée, et donc, j'ai pu la tester, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était œil moteur droit. Elle avait un profil de très terrienne, très marqué dans la flexion, un besoin pour percevoir son environnement d'être très ancré au sol, donc de mettre de la flexion. Or, tous les buts qu'elle prenait, c'était donc dans son champ visuel haut, à gauche. C'est sa zone la plus faible. C'est sa zone la plus faible. La lucarne gauche. Ouais. Donc ça veut pas dire qu'elle voit pas. Ça veut juste dire qu'elle voit moins vite. Et du coup, si elle voit moins vite, comme l'œil, c'est un œil qui permet de se coordonner, c'est d'abord tu vois et tu t'adaptes en fonction de ce que tu vois, eh ben, ça lui prenait plus de temps. Sauf que quand t'as un shoot à 7 mètres, t'as pas de temps. Donc, on a essayé de déterminer quelque chose. Je lui ai dit, écoute, c'est très simple. On va faire un truc. On avait très peu de temps parce que c'était en cours de saison, donc c'est pas évident. Je lui ai dit, ce que je te propose, c'est que tu vas te décaler un tout petit peu vers ton poteau gauche. Donc au début, le terrien en général, naturellement, des changements trop brutaux, il n'aime pas sur le plan cognitif. Alors c'est un peu caricatural, mais c'est quand même la vérité. Je lui dis, écoutez, essaye. Mets-toi un tout petit peu sur ta gauche et on va voir. Donc certes, il y avait plus d'espace sur son côté droit, donc il y avait plus de zones de tir, mais
elle réagit plus vite.
Elle voit beaucoup mieux à droite. Donc je lui ai dit, l'option que tu as en faisant ça, c'est que c'est toi qui fais le choix d'emmener l'adversaire pour qu'elle tire à là où tu es la meilleure. Alors, je dis pas que tu les arrêteras tous, mais là, c'est toi qui l'incites à tirer là où il y a une zone cible. Donc, je lui dis, là, t'as de la chance.
Tu l'incites à aller du côté où t'es bon. C'est ça.
T'es là où t'es la plus forte. Exactement. Ouais. Si moi, tu me dis, Mathieu, on va faire un jeu de force, je vais essayer, si je t'emmène, je te dis, OK, pas de problème, je te tends la main gauche. on va faire un jeu de force, mais je te tends ma main la plus forte. Donc quelque part, c'est moi qui t'emmène là où je veux t'emmener. Après, ça veut pas dire que je vais te battre. Ça veut juste dire qu'en tout cas, je me laisse la possibilité d'utiliser ma force. Et du coup, bah si je perds, c'est juste que t'étais plus fort que moi et pas que j'ai pas utilisé tout mon potentiel en fait. Et ça, c'est un exemple type. Caractéristique, c'était instantané. On faisait des tests avec des cache-œil. Je leur mettais un cache-œil et je leur disais, regarde, essaye de ressentir, coordonne-toi. Il y en avait, elles étaient complètement perdues, en fait. Et dès que tu changeais l'œil de sens, tu faisais l'autre, ça changeait complètement. T'as parfois des rugbymen qui arrivent en cabinet et le gars, il est pilier, il fait 115 kilos. Il a l'impression qu'il est fort partout. Parce que le gars, il est aussi large que haut et il a l'impression qu'il est fort partout. Évidemment que si tu le mets dans sa force, le gars, il te détruit. Mais tu lui montres en fait qu'il y a des zones, alors qu'il ne pensait pas que c'était le cas, dans lesquelles il n'est pas si fort que ça. Il suffit juste de le bouger de quelques centimètres au niveau de ses appuis, de modifier son centre d'appui, sur l'avant ou sur l'arrière de ses appuis, et hop, son système perd sa coordination. Parce que ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est que ton cerveau, il est avant tout là pour gérer un mouvement. C'est sa priorité absolue. Il est là pour gérer le mouvement. Et du coup, ce qu'il doit gérer avant de bouger, c'est l'équilibre. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu regardes les sports de strongman, quand tu regardes l'haltéro, quand tu soulèves une charge, tu n'utilises pas 100% de ta force. Parce que sinon, après, tu tombes, tu t'écroules par terre et tu tiens plus debout. Alors, des fois, ça arrive que les gars s'effondrent, qu'ils fassent un malaise parce qu'ils ont eu cette aptitude à aller chercher le maximum. Mais ton corps, en général, garde toujours une réserve parce que ce qu'il doit tenir, lui, d'abord, c'est la verticalité. Il doit lutter contre la gravité. Et après, seulement, il pense à soulever la barre. Et du coup, bah, l'exemple du rugbyman, c'est exactement ça. Je l'ai mis sur l'arrière. Mais si c'est pas sa préférence, eh ben, son cerveau, quand je vais essayer de le bouger un petit peu, de le déséquilibrer. Il est embêté parce que je lui demande de résister. Ouais, mais il arrive déjà pas bien à tenir debout dans cet espace-là. Comment veux-tu qu'il me produise de la force en plus? C'est pas possible. Donc, tu imagines ce qui se passe quand tu lui rajoutes une barre de 100 kilos sur le dos, voire que tu lui mets un trio de gars en face de lui qui veulent lui écraser la tête dans le cou. Ça marche pas, en fait. Tu vois? Donc, il s'agit de changer le positionnement avant d'entrer en mêlée et lui dire, écoute, là, t'as le choix de te positionner sur tes appuis comme tu veux. Donc à toi de le faire pour te mettre dans ta force en fait et pour pousser comme tu veux. Un footballeur, au moment des coups de pied arrêtés, il a le choix de positionner, de travailler son geste comme il le veut. À lui de le faire, péno, corner, coup franc. Évidemment que quand tu as trois joueurs qui t'arrivent dessus et tu dois te dépatouiller, bah tu n'auras pas forcément le temps d'aller dans ta préférence. Bah là, ça peut faire sens que de temps en temps, entraîner aussi bien sûr ce qui est moins naturel pour toi. Mais idéalement, c'est quand tu peux avoir des moments décisifs dans le match, c'est d'aller chercher cette force, cette quintessence de ton potentiel. Petit parallèle qui est très important, mais qui est pas des moindres. Attention, on n'est jamais 100% dans sa force durant une activité, quelle qu'elle soit, tout au long de ta journée. Ton cerveau, il gère ton capital force, c'est-à-dire que tu as deux mains, c'est ta main droite. Mais de temps en temps, pour la reposer, quand ton cerveau estime qu'il peut faire autre chose, il va utiliser sa main gauche. Et ça te permet de passer de l'un à l'autre parce que les mouvements que tu fais ne sont pas suffisamment complexes pour que ton cerveau ait besoin d'aller chercher sa préférence pour ça. C'est la même chose pour les mouvements et la motricité. Ou la gestuelle sportive, en fait. C'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, en permanence, ton cerveau, il gère ça, en permanence. Et il fait de l'instantané. Et il gère, il décide ça. Mais des fois, son environnement lui laisse pas le choix. Et là, c'est ça où, entre guillemets, il fuit comme un animal qui serait pas adapté à son environnement. Donc, il va faire comme il peut. Voilà. C'est ni plus ni moins. Et quand t'es blessé, c'est la même chose. Si t'es blessé sur ta force, ton cerveau va essayer de changer la zone. Donc, il va peut-être aller dans sa faiblesse. Certes, c'est pas idéal, mais ça lui permet de durer encore un petit peu, en fait. Tu vois, c'est un vrai système de survie. Voilà, j'étais un peu long, hein, désolé. Okay. Mais,
hyper intéressant sur l'application directe, pratique et compréhensible de tous, je pense. Justement de ses préférences motrices, de ses forces, de ses faiblesses, et de ses adaptations. Et au-delà de ça, il y a aussi, j'imagine, tout ce qui est sur la partie entraînement, sur la préparation physique. Peut-être des mouvements pour essayer d'entraîner le côté soigneux. Alors, il y a un truc qui se dit, je sais pas si en préparation physique ça se dit aussi, mais soigner ses points forts travailler ses points faibles et soigner ses points forts. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est un adage qui est assez connu. Et peut-être que c'est la question. J'essaie d'anticiper un peu que dans la préparation, l'entraînement, dans la façon de réorganiser sa planification d'entraînement, prendre en compte ces éléments-là, ça va se dire, bon, ben, on va moins travailler peut-être ces exercices-là, mais plus là, parce qu'on va essayer de compenser cette faiblesse-là, etc. Parce que, ouais.
Tout à fait. C'est ça. Exactement. En fait, ça veut pas dire, quand on dit qu'il y a une préférence, ça veut pas dire qu'il faut oublier ce qui n'est pas sa préférence. Je dirais pas zone faible, parce que c'est vrai que c'est pas un bon terme. Ce qui est moins naturel. Ce qui est moins naturel fait aussi partie de toi. C'est comme les deux mains, elles te permettent de reposer ta force. Donc elles font, c'est une entité, c'est un profil. On appelle ça, nous, la grande boucle et la petite boucle. La grande boucle, c'est ta force. La petite boucle, c'est celle qui permet de reposer ta force. Donc, pour revenir à ce que tu me disais, ça fait sens que d'aller travailler, entre guillemets, ce qui est moins naturel pour toi de temps en temps, parce qu'il y a bien un moment quand tu es sportif dans ton match de tennis, dans ton match de foot, où tu vas être obligé d'aller dans cet espace-là ou dans cette manière de bouger qui est pas naturelle. Si la balle te vient en haut et que t'es en déséquilibre arrière, ben il va falloir que tu joues en déséquilibre arrière. T'as pas le choix, c'est ça où tu tapes pas la balle. Donc il faut peut-être essayer de s'entraîner, bien sûr. Non, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à quantifier. Alors globalement, quand tout va bien, que la personne n'est pas blessée et qu'elle est dans une phase de préparation normale, on va dire qu'on travaille entre 70 à 80% dans sa force et 20 à 30% dans sa faiblesse. Pourquoi ? Parce que travailler plus dans sa faiblesse, ça va énormément impacter son système nerveux, son système énergétique en fait, son système neuromusculaire. C'est-à-dire qu'en gros, rapidement, tu vas te fatiguer. Alors c'est pas fatigué au point où tu es haletant et que t'es cuit. Enfin ça peut arriver, mais c'est pas forcément là. On est plus sur de l'énergétique. Non, c'est surtout sur la coordination musculaire. Et donc du coup, encore une fois, pour qu'un mouvement soit efficace, faut qu'il soit stable. Et pour qu'il soit stable, faut qu'il y ait un bon équilibre, un bon gainage de ton corps. À partir du moment où ton système neuromusculaire est fatigué, il y a des petits mouvements parasites qui vont flouter le truc. C'est comme une Formule 1. Si le pneu est pas bien dans l'axe, il est un petit peu voilé, automatiquement, quand tu vas accélérer, tu vas avoir une perte d'adhérence. Et donc, une perte d'adhérence, c'est une perte de vitesse, c'est une perte de vitesse, c'est une perte d'efficacité. Et surtout, ton pneu va s'user plus vite, ton pilote va s'énerver plus vite. Et ben, c'est la même chose pour le cerveau, en fait. Donc, ce système énergétique, il est essentiel. Et la coordination neuromusculaire également. Mais il faut de temps en temps aller la chercher. Mais jamais elle ne supplantera ta préférence. Mais il faut de temps en temps la chercher. Ce qui peut être intéressant, par contre, nous, on le voit en cabinet, on peut travailler avec les semelles sur les préférences motrices et également sur la morphoanatomie. C'est si tu es blessé actuellement, te poser la question, est-ce que tu es blessé par excès de force? Est-ce que tu as été trop dans ta préférence et du coup, les chaînes musculaires qui t'aident à aller dans ta force sont épuisées ou sont blessées? Là, il va falloir t'emmener momentanément dans ce qui est moins naturel pour toi pour reposer ta force. À l'inverse, si tu t'es blessé dans quelque chose qui était moins naturel pour toi, il va falloir essayer de t'aider à retourner dans ce que tu es naturellement. Ça, on peut le faire de différents biais, soit par le biais de semelles, soit par le biais de conseils d'adaptation motrice, c'est très simple. Que de dire ça au téléphone, par internet, ça peut paraître choquant. Moi, pour faire ressentir les exos aux patients, je l'ai encore fait hier, c'est assez bluffant. Il suffit juste d'activer un des muscles qui fait partie de la chaîne musculaire du terrien ou de l'aérien et de remettre la personne en gainage et lui demander de résister à un des tests. Et elle va se rendre compte que, par exemple, si la chaîne de l'aérien, tu peux la stimuler en faisant des petits rebonds sur place ou te mettre des pointes de pied. Ça stimule les mollets, donc notamment l'extension, donc c'est plutôt de l'aérien. Si tu testes la résistance, ça sera plus fort que les 10 secondes avant qu'elle ne fasse cette petite stimulation-là. En fait, quand tu fais ça…
Oui, c'est la préactivation pour voir si ça réagit.
Exactement. Tu mets déjà sous tension la chaîne musculaire, donc quelque part, tu augmentes le tonus postural de base, et donc elle te donne plus de réponses. Ça ne veut pas dire qu'elle va être plus forte que ce que tu fais naturellement, ça veut juste dire qu'elle réagit rapidement. S'il ne se passe rien, petit à petit, ton cerveau, dans un souci d'économie, hop, il rediminue le tonus, et donc, on va dire une minute ou deux minutes après, t'es revenu en mode, on va dire, naturel. Mais c'est une des manières qu'on a. Donc, quand tu répètes certains exercices à certains moments de ta pratique, quand tu répètes certains positionnements, quand tu induis ce mouvement-là avec tes semelles, tu vas stimuler une chaîne musculaire ou une autre. Tu vas stimuler une appétence ou une autre. Et ce qui est très important également, c'est tout ce qui est au niveau de l'information et du ressenti. Il est important que ton discours, ce que je vais demander à la personne, soit en adéquation avec l'image qu'elle se fait de la consigne que je demande de faire. C'est-à-dire que si je te demande de faire du terrien et je te demande de faire de l'ancrage, je vais peut-être éventuellement te demander avant, qu'est-ce que c'est que pour toi qu'être ancré au sol? Quelle image te vient à l'esprit? Tu vas me dire une pierre lourde, je sais pas, ou quelque chose de figé, un poteau ancré dans le sol. Et je vais te demander de visualiser ça en même temps et de produire cette force. Et là, je vais dynamiser énormément ta chaîne musculaire. Alors, dit comme ça, c'est toujours un petit peu, ça fait, non pas gourou, mais les gens disent c'est pas vrai, etc. C'est véridique. Alors, j'en parle pas souvent. J'en parle avec toi parce que tu vois, tu m'as mis à l'aise. Mais c'est quelque chose qui est incroyable. Si tu demandes à quelqu'un, à l'inverse, d'être extrêmement rigide, ancré au sol et de visualiser une plume ou quelque chose de léger, tu vas voir qu'au moment du testing, cette personne n'est pas coordonnée, en fait. C'est impossible. À partir du moment où l'image que se fait ton cerveau ne voit que sous forme d'image, en fait. C'est pas les mots, ça aide, mais il voit d'abord sous forme d'image. Si l'image n'est pas en adéquation avec la consigne motrice que tu lui demandes de faire, il va y avoir un biais. Ça impacte automatiquement ton tonus postural et donc il y a quelque part un équilibre qui est moindre. C'est ça les préférences motrices. C'est, il faut que l'intention précède l'action et qu'elle soit en harmonie avec celle-ci. Si mon discours n'est pas en harmonie avec ce que je te demande de faire, il va y avoir un biais et là c'est comme si tu accélérais avec le frein à main. Voilà,
c'est très lié à l'hypnose aussi ça. Ça me fait penser beaucoup à l'hypnose quand tu te mets dans un état et que c'est le cerveau qui choisit que c'est l'état dans lequel tu vas être.
En fait, on est clairement là-dessus. Nous, dans les préférences motrices, on utilise souvent, dans le coaching, dans le cognitif, tu utilises souvent ce qu'on appelle le SARS, un système d'activation réticulaire qui est basé à la base du tronc cérébral, on va dire vraiment à la toute base du cerveau, tout en dessous, qui a pour but un filtre. C'est-à-dire qu'en gros, il t'envoie les informations qui confortent ce que tu es en train d'observer ou ce que tu as comme pensée, en caricature un petit peu. Je prends l'exemple tout bête. Tout le monde a ressenti cette expérience. Tu veux t'acheter une voiture, je prends une bêtise, une Clio bleue. D'un seul coup, ton cerveau va avoir l'impression de voir des Clio bleus partout. C'est pas qu'il y en a plus qu'avant. C'est juste que il switch et fixe son attention sur ce qui importe actuellement. Et donc, pour rejoindre ton idée, l'hypnose, et c'est en cela que c'est fin, c'est qu'en fait, tu peux induire une intention ou pas à ton cerveau. Exactement. Si tu penses négatif, ton cerveau va t'envoyer toutes les informations négatives qui confortent cette idée dans ton environnement. Et si tu penses positif, c'est l'inverse. Donc, quand tu visualises quelque chose, eh ben, indirectement, si tu le visualises d'une certaine manière et que tu essayes de faire autre chose, c'est pas possible. Ça fonctionne pas ensemble. Tu vois, il y a un biais, quoi. T'accélères et tu mets un petit coup de frein à côté. Donc, ça, c'est important de le comprendre, c'est très très fin, on n'en parle pas souvent parce que c'est un sujet qui est très large, mais c'est vraiment un outil qui est très puissant, enfin pas un outil, même une manière d'approcher l'humain qui est très puissante et qui est fascinante en ça, parce que même toi tu découvres les gens se découvrent et c'est ça qui est assez bluffant.
Attends, c'est super intéressant. Il y a un truc qui me vient en tête, c'est que forcément, si tu imagines des femmes nues, est-ce que tu risques d'en voir un petit peu plus dans la rue, ça?
Écoute, je sais pas, peut-être virtuellement. C'est des fois, ça s'appelle un fantasme. Mais écoute, peut-être. Non, j'ai jamais posé ça comme question.
Non, mais ben, les gens ils vont se dire, mais okay, d'où c'est qui va lui. Au départ, c'était la Lamborghini parce que t'as parlé de Clio et je me suis dit, tiens, si on passait au Lamborghini, est-ce qu'on verrait plus de Lamborghini parce que ça reste un truc rare. Et puis évidemment, mon esprit a vagabondé sur d'autres fantasmes.
Il se conditionne. C'est ça qui est intéressant, oui. C'est que pour redire l'image que tu disais, c'est que il ne fait pas la différence si tu arrives à reproduire le bruit, si tu arrives à reproduire l'émotion. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il y a même eu des études qui valident ça, qui ont fait entre guillemets jaser. Il y avait eu des études qui avaient été faites sur des basketteurs professionnels où on les avait testés, un groupe de basketteurs pendant 3 semaines qui avaient fait 2 heures de panier et des basketteurs qui pendant 3 semaines avaient fait pendant 2 heures de la visualisation en fait, qui s'étaient imaginés, qui avaient ressenti le shoot, qui avaient entendu le bruit du panier, qui s'étaient revus. Et ben en fait après on avait remesuré leur capacité, leur aptitude à mettre des paniers. Le groupe qui n'avait pas shooté pendant 3 semaines était meilleur que le groupe qui avait shooté. C'est-à-dire que ton cerveau, si tu arrives à le préparer, à le conditionner et à visualiser le mouvement, pour lui, c'est comme si tu y étais. C'est pas pour rien que les sportifs blessés, on leur demande de se visualiser en train de produire l'effet et ça impacte automatiquement ta manière de bouger. C'est inné, en fait. Tu entretiens les connexions motrices en faisant ça. Hein, on est sur les neurones miroirs. Enfin là, je diverge, mais on part sur les neurones miroirs en fait. Hein, c'est quand je te vois bouger ou boire ton café que tu as pris tout à l'heure, je n'en bois pas moi. Mais pour mon cerveau, les zones qui auraient fait ce mouvement, ton décaféiné, les zones qui auraient activé ce mouvement-là pour moi, elles s'allument en fait. Si on faisait une IRM de mon cerveau à ce moment-là, quand je te vois boire ton café, c'est les zones cérébrales de mon cerveau qui auraient pu gérer cette tâche, se mettre sous, non pas sous tension, mais s'allument. Même si je ne fais pas le mouvement, c'est comme si je le faisais pour mon cerveau. Tu vois, voilà.
Ça me fait penser un peu, d'une certaine façon, à la loi de l'attraction aussi. Tu sais, de s'imaginer ou de se mettre dans une condition, ça fait attirer. En fait, il y a pas de truc magique. Et puis c'est pas juste de penser à quelque chose qui fait que ça va arriver. Mais il y a un lien.
Il y a un lien. Exactement. Il y a un bouquin très intéressant qui s'appelle, je pourrais te donner si tu veux la référence, je veux l'avoir derrière moi, sur le SAR, le système. Ça s'appelle La Réponse. La Réponse. Tu l'as, c'était deux Américains qui ont best-seller, 25 millions de livres vendus. Ça s'appelle La Réponse. Et c'est des spécialistes qui ont montré, en fait, que le SAR, ce fameux système d'activation réticulaire, à partir du moment où tu te conditionnais, où tu écrivais, où tu préparais ton cerveau à exécuter une tâche, ton cerveau allait mettre en branle tout un système qui lui permettrait de capter dans son environnement quelque chose qui va t'aider à atteindre cette tâche. Et ça, c'est incroyable. Quand on dit ça aux gens, les gens disent, ah, c'est pas possible. Mais la visualisation, c'est ça. Je me visualise en train de gagner. Donc, j'habitue mon cerveau à réaliser ce qui va lui permettre de performer. Et il est convaincu qu'il va gagner. Je suis pas sûr de gagner un match. Par contre, si je me visualise en train de le perdre, je suis déjà en train de me paramétrer pour le perdre. Et moi, quand j'étais sportif de haut niveau, je l'ai ressenti ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà perdu le combat avant même de mettre les pieds sur le tatami, quoi. Et du coup, mais je n'arrivais pas à me mettre de mots là-dessus, tu vois. Et après, c'est en cela aussi que ça a fait sens quand j'ai commencé à m'intéresser au cognitif via l'approche des préférences. C'est que je me suis dit, mais c'est incroyable. Je l'ai ressenti, mais je savais pas l'expliquer. Tu vois, c'était, j'avais fait un peu de sophro à l'époque, mais c'était les débuts et ça avait pas répondu à mes questions. Enfin bon, voilà, c'est très bien la sophro, mais en tout cas pour moi, ça avait pas matché. Mais tu vois, donc c'est très intéressant. C'est vraiment fascinant.
La réponse, livre d'Alan Pease.
Exactement, avec sa femme. Ouais.
Ouais, exactement. Barbara.
Best-seller, 30 millions, c'est vraiment, moi je l'ai lu, c'est bluffant, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse pour tout, même dans la rééducation, dans les, enfin tu vois, c'est très 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 important d'essayer toujours d'aller dans ce sens quoi.
Ouais. Je me suis noté ça, je me le rajouterai. Alors je veux revenir juste 30 secondes, peut-être pas plus que 30,
ouais.
sur l'entraînement en fonction des préférences motrices.
Yes.
Donc le fait d'entraîner le système qui est faible, encore une fois, c'est moi j'essaie de
j'entends, viser, oui,
c'est
non, pas faible, la petite boucle, on va
en gros,
appeler
si t'es plus, voilà, si t'es plus vers l'avant, c'est-à-dire que t'es moins fort vers la petite boucle. Bon. Si tu veux entraîner la petite boucle, en fait, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts parce que c'est pas naturel et que tu vas demander beaucoup de ressources à ton corps pour travailler ça. D'accord. Donc
exactement.
En fait, tu vas dépenser
ouais.
plus de calories, tu vas te cramer plus vite, tu vas
ça va créer un état de tension qui est moins naturel. Pour l'exemple, voilà. C'est comme si tu disais toi tu es droitier, je te fais écrire une page avec la main gauche. Tu vas ressentir, tu as peut-être déjà essayé, tu vas ressentir un degré de tension en toi. Une fatigabilité qui apparaît, ton système nerveux qui commence à un degré de tension, c'est vraiment le terme. Ouais. Et à un moment, si je te dis, bah, maintenant tu me fais 10 pages, tu vas me dire, t'es sympa, Mathieu, mais tu as posé le stylo et tu vas dire, non, tu me saoules. Et ben, en fait, mais si demain ta main droite est blessée, on est d'accord que si tu veux t'habituer à ton environnement, t'auras pas le choix et tu seras obligé. Et là, tu vas le faire, mais il y a une manière de le faire. Mais ça sera jamais aussi naturel. Et donc, quand il s'agit d'une question de survie, eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que si, malheureusement, tu es blessé ou ton environnement ne permet pas d'utiliser ta préférence, bah, si tu veux continuer à évoluer dans cet environnement, t'as pas le choix. Il faudra que tu t'adaptes. Donc, tu iras chercher quelque chose qui est moins naturel pour toi. Par contre, tu sais que tu peux pas durer indéfiniment dans ce schéma-là, mais ça te permet encore de continuer encore un peu. Et donc, du coup, d'évoluer. Comme le propre de l'homme, c'est d'être en capacité de s'adapter à son environnement, bah, il passe de l'un à l'autre, de sa force à sa faiblesse, sa force à ce qui est moins naturel pour lui. Mais idéalement, il préfère aller dans ce qui est fort pour lui, quoi. Parce que ça lui demande moins d'énergie. Voilà. Mais,
et
il faut faire les deux.
Peut-être ma réflexion qui va suivre va être un petit peu bête et peut-être archaïque et très simpliste, mais tu vas pouvoir m'aiguiller sur ça. Si ça demande beaucoup plus d'efforts d'entraîner la petite boucle, donc c'est que là où on est le plus faible, est-ce que ça demande plus d'énergie, donc ça brûle plus de calories, ça fatigue plus vite, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement moyen d'avoir des modèles d'entraînement orientés vers la perte de poids plus facile?
Ah, bonne question.
Moi, par exemple, voilà, marketing, tu crées une formation, tu crées un truc où la personne va pouvoir s'analyser pour savoir si elle est plutôt terrienne ou aérienne. Très bien,
ouais.
Elle s'est analysée, elle est terrienne. Et ben, elle a un programme derrière pour programme de
ouais, minceur pour perdre du poids.
Voilà, de sollicitation du système aérien
d'accord,
plutôt que le
ouais.
terrien parce qu'en moins de temps, elle va brûler plus de calories ou ça va lui demander plus d'efforts que truc.
Alors, quand je te dis, peut-être, la nuance que j'apporterai, je ne sais pas si ce serait faisable. Quand je dis, en fait, il y a une fatigabilité et un système énergétique qui va se fuser plus vite, c'est surtout un système neuromusculaire, en fait, qui va se fatiguer plus vite. Il y aura peut-être des calories qui vont être consommées un petit peu plus, mais à mon avis, le delta, il sera faible. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas fatiguer ton système neuromusculaire plus vite, peut-être même, plus tôt ou trop tôt par rapport à un degré suffisant de consommation calorique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, ça va rapidement okay. saturer. C'est plus dans ce sens-là où on va parler de fatigabilité ou d'énergétique, c'est-à-dire d'énergie, pas d'énergie au sens calorique du terme, mais d'énergie en termes de tonus, de dynamisme musculaire. Mais si, effectivement, si on pouvait faire durer dans le temps, ça consommerait certainement peut-être plus d'énergie parce que ce qui consomme plus d'énergie, c'est le cerveau. Donc, ça lui demande un effort peut-être supplémentaire. Donc, si on pouvait quantifier ça, on pourrait se dire que par l'absolu, dans l'absolu, c'est ce qui mènera à ça. Mais je pense que la fatigue neuromusculaire va arriver tellement vite que le delta, il va pas être flagrant, en fait. Donc, si j'ai, et surtout si je veux pas que tu te blesses, parce que si je te fais faire, tu vois,
parce
des burpees ou du crossfit, bah ouais, tu vas peut-être, alors, admettons qu'on puisse faire, mais sauf que c'est pas naturel. Donc, si je veux pas que tu te blesses, bah, l'idée, c'est quand même que tu fasses ton programme sur une certaine durée. Si au bout de 2 semaines, c'est fini, Merde, tu vois, t'as pris un coach. Donc non, je pense qu'il faudra plutôt t'emmener dans ta force. C'est pas dire que de temps en temps, faut pas aller chercher un peu autre chose pour te, ne serait-ce que pour te, bah, pour changer le programme, pour le rendre un peu ludique, et puis aussi pour te faire confronter à un peu des notions de difficulté. Mais si tu restes trop dans quelque chose qui est pas naturel, là, tu t'exposes à la blessure clairement. Parce que tu perds de la coordination penser, en fait, et d'équilibre. Ah, t'avais un business, ouais.
Oui, tu pensais avoir trouvé un truc. Bon, tant pis. Mais tu vois, mais ça permet justement de se dire que non et de nuancer.
Bah, je pense pas effectivement que ouais. Ce sera. C'est-à-dire que dans la durée, sur une séance, ça peut être jouable peut-être. Dans la durée, à un moment, tu vas exposer ton sportif. Ouais, il va s'exposer à la fatigue ou à la blessure. Et du coup, finalement, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est plus fonctionnel et un sportif qui performe, c'est avant tout quelqu'un qui se blesse pas, quoi. Donc, il faut essayer de l'emmener dans ce schéma-là, quoi.
Christian Thibaudeau, est-ce que ça te parle ?
Écoute, ça me dit quelque chose. Après, je me souviens plus ce qu'il fait, mais dis-moi.
Alors, préparateur physique et un entraîneur assez réputé au Québec et qui a surtout parlé des neurotypes.
Ça me dit quelque chose. Assez costaud, etc., qui s'appelle Neuroperformance en institut. C'est ça ?
Ah oui, ouais.
Ouais, okay. Oui, vas-y, je t'écoute.
Eh ben alors, on est dans les préférences motrices, dans la morpho-anatomie, et tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a fait tilt et je l'ai noté, je me suis noté sur une petite footnote ici.
Yes.
Quand tu as parlé de préférences hormonales, on n'était pas très loin parce que les neurotypes, selon Christian Thibaudeau, que j'ai pas encore reçu sur le podcast, mais je l'inviterai, j'espère qu'il va venir et qu'on pourra discuter de tout ça, c'est que lui, il parle de neurotypes et je pense que ça serait l'équivalent du préférence neurotransmetteurs, des neurotransmetteurs.
Ouais.
Il y en a certains, ils vont être plus dopaminergiques, plus sérotonine, plus bref. Et en fonction du neurotype que l'athlète est, il va orienter l'entraînement, si ça va être plus ceci, plus cela, en fonction de son neurotype. Et je voulais simplement, comme j'ai pensé tout à l'heure, savoir si t'avais vu un petit peu ce qu'il avait fait, ce que t'en pensais.
Non, j'ai pas vu. Alors, j'en ai entendu parler, là, quand tu m'as reparlé, entraîneur du Québec, etc. Et ça fait tilt parce qu'il est assez costaud. Il aime, tu vois, qu'il aime la muscu. Il doit faire des sports de force, certainement. Ça m'est revenu. Maintenant, je connais pas le détail de son approche. Mais ce que tu me dis, pour moi, ça fait sens, en fait. À partir du moment où tu détermines, où tu te rends compte que, pour moi, ses préférences hormonales, tu le vois, c'est tout simple. C'est certainement, il suffit de regarder une analyse sanguine, en fait. T'as des gens, tu vas faire une analyse de sang. Tu vas dire quoi? Tu vas, oh là, vous êtes en dessous de la moyenne. Et quand tu discutes avec eux, quand tu regardes leurs perfs, les sportifs, ils sont souvent en carence de fer, encore plus les femmes du fait du cycle hormonal, du cycle menstruel. Quand tu regardes leurs perfs, eh ben, tu te rends compte que certaines avec un cycle hormonal, ou avec une carence en fer, en dessous, continue à performer plus que d'autres qui seraient dans la moyenne. Donc là, tu dis merde, il y a un problème. Comment ça se fait? Donc ça, c'est bien un signe que ce qu'on estime être dans la norme ou la moyenne, elle est propre à chacun. Et c'est valable certainement donc pour cette histoire de neurotransmetteurs. Peut-être que certains ont plus de récepteurs ou de neurotransmetteurs de tel type et d'autres d'un autre type. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, c'est tout à fait, enfin, ça me paraît tout à fait cohérent. Quand j'entends ça, je suis pas choqué d'entendre ça. Ça va vraiment dans ce, tu vois, ça va vraiment dans ce schéma-là. Donc je pense que ça fait clairement sens. Aujourd'hui, l'environnement de demain, je pense qu'on sera capable de dire aux gens, on fera des analyses sanguines, on comparera plus par rapport à la moyenne global, on comparera par rapport à la moyenne du profil de cette personne-là, en fait. On te dira, toi, t'as besoin de temps, toi, t'as besoin de temps. Autre exemple. Tu prends les sportifs, là, on va partir sur ces choses peut-être plus concrètes. Si tu regardes les meilleurs marathoniens, qui arrivent, qui courent le marathon en 2h, 2h10, je crois que c'était 2h15, c'est Cyril Jean qui m'avait évoqué ça une fois. Si tu regardes, la plupart, quand ils arrivent, ils sont déshydratés. C'est-à-dire qu'ils ont, je sais plus, je veux pas te dire de bêtises sur les chiffres, mais je crois que c'était un truc, on était pas loin des 20% de 10 à 15% de déshydratation. Ils sont déshydratés. Pourtant, ils performent en 2 heures. Or, on répète à tout le monde qu'il faut boire à foison, il faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça veut juste dire que il y a peut-être des nuances à apporter selon les personnes. Peut-être que certains ont une capacité à fonctionner avec moins d'eau que d'autres. Est-ce que c'est lié aussi peut-être à leur environnement? Est-ce que c'est parce que c'est souvent des coureurs de type africain qui vivent dans des environnements où l'eau est moins fournie? Donc, est-ce que la manière qu'ils ont de consommer l'eau est meilleure que d'autres? Hypothèse. Est-ce que c'est juste une manière de fonctionner qui leur est propre? Je ne sais pas. Et qui n'est pas forcément liée à leur environnement, à leur écosystème. Mais tu vois, ça, c'est un exemple type. Et pourtant, on n'en parle pas. Et pourtant, on dit à tout le monde, faut pas attendre d'avoir soif. Quand vous avez soif, c'est trop tard. Ça dépend. La preuve que non. Eux, ils arrivent à courir en 2 heures et ils sont pourtant déshydratés. Tu vois. Et t'as un qui court en 5 heures, ils arrivent, ils ont le réservoir plein. Comment on fait? Tu vois. Donc, c'est beaucoup plus fin. Et c'est en cela où, comme je te disais tout à l'heure, je pense que plus on va avancer, plus on va aller vers de l'individualisation et les paramètres que propose excuse-moi, j'ai oublié, tu m'as dit Philippe Thibodeau, c'est ça? Voilà, vont dans le sens de Christian Thibodeau, vont dans l'individualisation et pour moi ça fait sens effectivement. Après, faut que ça repose sur des fois on voit des choses. Et ce qui serait bien, c'est que ça repose sur des études autant que possible quand on le peut, hein, scientifiques, que ça n'apparaisse pas aux yeux des gens, et c'est un peu le problème des préférences des fois, ça n'apparaisse pas aux yeux des gens comme étant gourou quoi. Tu vois, c'est ça qui est délicat. Faut faire attention à comment tu l'amènes. Ouais. Mais oui, on y va tout droit. Je pense que j'adhère tout à fait à ça. Ouais.
Bon, si certains connaissent Christian Thibodeau, sont des proches ou un contact, et qu'ils n'hésitent pas à me contacter là, mon adresse email est, enfin l'adresse email du podcast et l'Instagram est dans la description, comme ça qu'ils peuvent mettre en contact. Ça fait longtemps que je pense à faire que j'aimerais discuter avec lui pour un épisode. Et puis là, tu vois, le fait qu'on parle beaucoup de préférence, de morpho,
ça fait sens. Et puis pour expliquer encore mieux son schéma et comment ça fonctionne, et ça c'est intéressant, clairement. Clairement, l'avenir du sportif de demain, c'est l'individualisation.
Ouais, et de plus en plus. Et de plus en plus, dans les épisodes que je tourne,
tu vois, avec tes coachs.
Le maître mot de la performance sportive.
Ouais, bien sûr. Et même chez le sportif, on va dire lambda, sans méchanceté aucune. C'est-à-dire, souvent, quand tu regardes il y a 20-30 ans, le fait d'individualiser l'entraînement, c'était réservé à l'élite. C'est-à-dire que le gars, il va voir le cardiologue, il a un test d'effort, un machin. Maintenant, les gars, ils veulent tous du haut niveau à leur niveau. C'est-à-dire que quand t'as ton patient Camille qui court 3 fois par semaine, il achète la dernière Vaporfly à 250 €, parce qu'il va voir la meilleure godasse, il a la dernière Garmin, enfin, je vais pas faire de pub, mais la dernière montre connectée à 800 €. Enfin, il a tout top, tu vois, le gars, il veut. Donc voilà, qui sait, c'est l'avenir peut-être. Mais du coup, tu vois, et l'idée c'est ça. Donc maintenant, on y va tout droit. Donc clairement, oui, c'est l'individualisation. Tu me posais une question sur les kinés, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, c'était juste la suite plus ou moins logique. Hein, c'est que tout ça là, tout cette super boîte à outils, toi, tu la mélanges un petit peu avec tes compétences de podologue, de prépa, parce que t'as aussi une qualification en préparation physique. Donc
ouais, voilà. J'ai pas de master en préparation physique, que je sois clair. Moi, je me suis formé en 2 ans via un institut, une formation au PCQ, c'est un organisme particulier qui s'appelle Transfer, avec Anaël Aubry, Yann Lemur, enfin des pointures dans le milieu. Et moi, j'avais besoin d'avoir une approche globale de la préparation physique. J'avais pas le temps de m'inscrire en 4 ans, 5 ans d'études, etc. Donc j'ai fait ça. Donc c'est en cela que je travaille sur la préparation physique et je l'avais moi-même expérimenté. Alors ça, c'est de l'empirisme, ça n'a de valeur que pour moi. Quand je faisais du karaté, parce qu'à l'époque, la préparation physique, la muscu, c'était interdit, donc fallait s'entraîner en cachette. Donc c'est aussi pour ça que j'ai dévoré beaucoup de bouquins pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait, pour pouvoir me l'appliquer à moi-même. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais pour rendre à César ce qui est à César, si je veux dire.
Très bien. Toi qui voulais faire kiné auparavant, est-ce que maintenant tu collabores avec des kinés, tu vois, est-ce qu'ils ont une approche est-ce que tu aurais aimé faire kiné peut-être tu sens que c'est des compétences qui te manquent ou pas du tout
Non, je suis intéressé partout, ostéo, kiné, tous ces préparateurs physiques, tous ces métiers. Moi, tout m'intéresse. Je j'ai pas assez malheureusement d'une vie et pour tout faire. Mais oui, bien sûr, je collabore avec des gens. Là, on parlait de, je te parlais d'un tennisman là qui est 300e mondial que j'ai vu. J'ai vu une fille lundi football américain. C'est son préparateur physique qui me les a envoyés, son kiné. C'est donc on travaille en échange. Moi, je leur fais un bilan de mon point de vue sur les biais morpho-anatomiques, préférences motrices, et on essaye d'avancer et de voir comment on peut construire leur programme. Pour le hand à l'époque, c'est pareil, je travaillais en étroitesse avec le kiné et le préparateur physique. Je voyais les jeux des fois de mon côté au cabinet, puis après on se voyait des fois in situ et on comparait. Ils faisaient des tests, des squat jumps, des compte movement jumps, m'envoyaient les vidéos, ils me disaient regarde, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on peut changer. Après on mesurait avec les plateformes de pression, on faisait ça sur opto jump, enfin on faisait plein de choses qui permettaient de marier nos approches et essayer de voir comment l'un communiquer avec l'autre. Et clairement pour moi aussi c'est pareil, la prise en charge de demain ça sera une pluridisciplinaire et on pourra pas chacun fonctionner de son côté. Alors moi, on est obligé, évidemment c'est tellement complexe, on est obligé un peu de compartimenter les choses pour pouvoir aller plus loin, et si on veut essayer d'être expert dans un domaine, encore expert c'est un peu pompeux, mais d'en savoir le plus possible sur un domaine, on est obligé quelque part de le fermer un peu pour le creuser. Mais une fois qu'on a dégagé une tendance, il faut essayer de se rapprocher des autres experts ou des autres spécialistes des autres domaines et de voir comment on peut faire un pot commun pour après j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais plein de gens le disent et peu de gens le font en fait. T'as qu'à le voir quand t'as des patients au cabinet. Moi, combien de fois, des fois, les gens disent, le kiné, il m'a dit que les semelles, ça servait à rien. Ou des fois, des podos qui vont dire, mais le kiné, c'est pas le moment d'aller le voir, tu vois. Chacun a sa place. Mais, c'est complémentaire, en fait. L'humain est tellement complexe qu'on peut pas, on peut pas dire c'est l'un, c'est l'autre, tu vois. Non, bien sûr. Donc oui, je travaille quand je peux, quand les kinés sont ouverts à ça, parce que parfois, bah t'as des podos qui sont fermés à ça, t'as des kinés qui sont fermés à ça. Enfin, dans tous les corps de métier. Bon bah là, c'est pas la peine. Si les gens ont pas envie d'entendre ça, bon bah moi je peux pas travailler avec eux, quoi. Donc ce cas-là, je donne aux patients. Et malheureusement, bah le patient il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et voilà quoi.
Ouais. Petite question rapide. Toi qui es dans un peu le milieu de la performance sportive, performance, sport, santé, meilleur conseil santé que tu puisses donner, toi, de ton expérience?
Waouh.
Bon, alors, je prends direct au dépourvu. Non, peut-être pas
okay,
le meilleur, mais
disons, en deux mots, ouais.
Par rapport, alors, je vais la reformuler pour que ça soit plus simple. Les conseils santé, on les connaît tous, mangez bien, bougez bien, préparez-vous, échauffez-vous, récupérez, ouais. etc. Ça, c'est toutes les choses qu'on peut savoir lorsqu'on s'intéresse de près ou de loin à une pratique sportive, à la santé, quand t'as été podologue, quand t'as, voilà, on a toute cette base là on va dire, qu'est-ce que la morphoanatomie et les préférences motrices, tu vois, parce qu'on a vraiment tourné autour de ça aujourd'hui, est-ce que ça t'a apporté une vision différente qui a fait que t'as rajouté un conseil santé aux athlètes que t'avais, qui t'ont fait changer le truc, qui t'ont dit bon, fais plutôt ça, tu vois?
Ouais. Alors, si je devais dire quelque chose à quelqu'un, c'est je reprendrai la phrase qui est un des premiers qui est de la bouche d'un des premiers que j'ai entendu, c'était Bruce Lee qui disait regarde ce qui se fait autour de toi, regarde ce qu'il y a de meilleur autour de toi dans ce vers quoi tu veux aspirer, essaye, ça marche pour toi, garde-le, ça marche pas, change. Voilà. C'est la meilleure manière, je pense, que d'essayer quand tu n'as pas de connaissances ou si tu ne sais pas, de te rapprocher de ce qui est bon pour toi. Ça ne veut pas dire ce que font les autres est fondamentalement toujours bon ou fondamentalement mauvais. Ça veut juste dire que quand tu pars d'un point zéro, que tu n'as pas de repère, que tu n'as pas d'expérience et tout, regarde ce qui se fait de meilleur dans ta discipline. Si c'est le sport, bah regarde comment font les meilleurs, essaye de voir si ça match pour toi. Si ça match pas pour toi, change et regarde ce qui se fait ailleurs. Idéalement, si tu le peux, va prendre conseil auprès de spécialistes assez ouverts pour que ces gens-là te fassent gagner du temps, parce que le temps, c'est la seule unité malheureusement qu'on ne peut pas acheter. C'est-à-dire que c'est ça, il passe de la même manière pour tout le monde. Donc essaie d'aller voir des gens qui sont passés par là avant toi, de manière à ce qu'ils se fassent gagner du temps et qui te fassent atteindre ce pourquoi tu vis ou ce vers quoi tu tends, voilà, pour un sportif qui voudrait performer. Ça transformera pas un âne en cheval de course. En revanche, tu seras sûr qu'en te rapprochant de ce qui est naturel pour toi, ce qui est ton potentiel, tu utiliseras tout ton potentiel. Après, tu y arriveras ou pas. Mais en attendant, tu n'auras pas de regrets parce que tu sais que tu auras été au maximum de tes capacités ou du moins, tu t'en seras rapproché. C'est ça que je dirais aux personnes, j'ai fait plus que deux mots là, mais si je devais leur dire quelque chose, c'est ça. C'est vraiment important.
D'accord. Tu continues à t'entraîner, toi?
Écoute, j'essaie de continuer à m'entraîner. Alors, pour grosso modo, maintenant, alors je m'entraîne plus en karaté parce que j'ai arrêté ma carrière il y a une vingtaine d'années. Je m'entretiens physiquement à peu près 2-3 fois par semaine. Donc voilà. Donc bon, alors là, les salles sont fermées, donc je fais un peu de trucs chez moi. Sinon, j'allais en muscu, entraînement au poids du corps. Je faisais un peu de circuit training, etc. Donc oui, j'essaie de m'entraîner autant que je le peux, quoi.
Est-ce que on a le temps, mais c'est important. Hein. Toutes tes connaissances, elles ont changé concrètement.
Alors oui, alors pour la morphoanatomie, ça je me l'appliquais déjà un petit peu avant, parce que j'avais remarqué, moi je suis comme toi, c'est-à-dire que j'ai des biceps assez courts, j'ai des triceps longs et pectoraux assez larges. Je suis plutôt morphotype gorille, moi. Donc j'ai plutôt ce morphotype là, mais j'ai des biceps assez courts. Donc la morphoanatomie, je me l'appliquais déjà. Les préférences motrices, je me l'applique aussi, ou tout du moins je comprends pourquoi j'étais plus à l'aise dans certains mouvements que dans d'autres. Après, par contre, ce qui est certain, c'est que j'utilise énormément les préférences motrices et surtout les préférences cognitive dans le discours que j'ai avec le patient. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la manière que tu as de bouger me donne non pas qui tu es, mais te donne une tendance sur la manière que tu as de fonctionner, de prendre l'information et la manière que tu as de l'interpréter. Et du coup, quand je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe ou que je vais essayer de te faire adhérer à ce que je te propose, je vais te présenter ou t'expliquer la chose selon ce qui me paraît être le plus naturel ou le plus simple pour toi, pour que ça matche en fait entre nous et pour que tu essaies de mettre en pratique ce que je te propose. Et c'est en cela où ça a vraiment changé ma façon de faire, parce qu'avant j'avais une vision des choses qui était la mienne. Alors si tu tombes sur des gens qui ont un fonctionnement, un profil proche, c'est génial, ça matche tout de suite et t'écoutes. Par contre, tu risques de te heurter parfois à des gens qui sont pas du tout comme ça et tu vois, ça fait des bisbis. Et c'est aussi pour ça que les préférences motrices et surtout les préférences cognitives sont utilisées en entreprise maintenant pour faire travailler des gens ensemble qui sont pas faits au départ ou qui fonctionnent pas de la même manière. Dans un groupe de sportifs, une équipe sportive, c'est la même chose. Quand tu as 11 joueurs dans une équipe, si tu dispenses le même discours à 11 joueurs, t'en as qui vont l'entendre et t'en as d'autres au bout de 5 minutes, ils en ont plus rien à faire parce que leur cerveau, il ne prend pas l'info comme ça en fait, tu vois. Donc c'est ça que ça a surtout changé en fait, c'est vraiment ma manière de
communiquer.
Qu'est-ce
que tu as vu sur moi ?
Je t'ai pas vu bouger. Je ne t'ai vu que discuter. Donc je ne t'ai pas vu bouger. Donc je me prononcerai pas. Il faudrait que je te voie bouger. Alors ça se teste aussi, mais moi je travaille beaucoup aussi sur l'observable. En te voyant bouger, sans que je te dise ce que je regarde, je pourrais te donner quelques informations. Voilà. Mais là je t'ai pas vu bouger, t'es assis sur une chaise. Alors je vois quand même des tendances depuis tout à l'heure, mais ton environnement t'influence. Le micro qui est sur l'avant, donc t'es beaucoup sur l'avant. Ton écran, ta caméra est à droite et tu regardes ton PC devant toi. Donc la prise d'information visuelle me guide, mais voilà, je me prononcerai pas plus. Mais on voit quand même des tendances. Okay, mais voilà, je sais que t'es droitier.
Je suis droitier. Oui, évidemment. Ok, ben c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Je me dois de te poser les petites questions de fin assez rapides là, qui vont aller vite.
Ouais.
Enfin, qui vont aller vite, peut-être pas parce que la première est pas si facile. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre ?
10 ans en arrière, je sais pas, 15-20 ans en arrière, je sais.
Partons sur 15-20 ans, hein, c'est pas
15-20 ans en arrière, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure en fait, c'est-à-dire si tu regardes un petit peu au fond de toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Sauf que t'es soumis à énormément de biais et du coup des fois t'as tendance à vouloir un petit peu copier les autres et tu te perds dans des contrées qui sont pas forcément les tiennes. Mais au fond de toi, au plus profond de toi, souvent, et c'est comme pour, alors attention, je veux pas tomber dans le côté un peu gourou aussi, mais c'est un peu comme la guérison en fait, ou comme quand t'essayes de te rééduquer. Bon, petit parallèle, moi j'ai eu des gros soucis de santé fut un temps, j'ai passé plus d'un an en centre de rééducation. En fait, on t'aide à l'extérieur, etc., pour te rééduquer, mais c'est au plus profond de toi, il faut essayer d'aller chercher quelque chose qui t'aidera à revenir un petit peu à l'état qu'était le tien avant. Et en fait, cette attitude-là, tu l'as un peu pour tout, en fait. C'est notre instinct de survie, ce qu'on appelle basiquement notre instinct de survie, mais pour le coup, il est réel. Sauf qu'on ne l'écoute plus parce qu'on vit dans des sociétés policées où aujourd'hui la survie elle est très peu impactée, donc tu n'as plus vraiment besoin. C'est pas le Far West où il n'y a pas un mammouth qui va te sauter au coin de la rue normalement dessus. Néanmoins, on l'a toujours en nous. Et en fait, au plus profond de toi, si tu essaies d'éviter les biais, tu sais ce qui est bon, ce qui est pas bon pour toi. Donc c'est ça en fait. Je me dirais, ne te perds pas avec des futilités ou des choses qui au fond tu sais ne te servent pas, et va à l'essentiel. Et ce qui est l'essentiel. Et si tu sais pas, prends conseil auprès de gens dont c'est le métier et ils te feront gagner du temps. Voilà ce que je me dirais. Je me dirais surtout nos regrets. Fonce. Voilà, ça oui. Le temps passe vite, très vite.
Un modèle ou un mentor ?
J'ai pas de mentor. Alors, j'avais une fois, enfin j'ai des gens que j'ai beaucoup respectés dans les arts martiaux, forcément. J'allais dans le cliché, mais Bruce Lee, parce que pour moi c'était vraiment bon, mais bien sûr c'est avant tout un acteur, hein, c'est un artiste martial, mais c'était un pionnier, c'est un des premiers sans le savoir à parler des préférences. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. J'avais lu tous ses bouquins, donc dans les sports de combat, lui, et j'avais aussi des modèles dans le karaté, Gilles Chardieu, Christophe Pinard, enfin des gens très spécifiques, Dominique Valera un peu plus ancien. Après, dans les préférences, des gens qui m'ont beaucoup influencé, les formateurs, Cyril Gendre, dont je t'ai parlé, Laboratoire Vaudaine, Ralph Hippolyte, qui est un personnage vraiment incroyable aussi, avec qui j'ai discuté. Et je dirais aussi mon père, en fait, parce que je pense que même si c'est pas lui qui m'a forcé à rien, on a un schéma de fonctionnement qui est très proche. Et il était déjà passionné de, je te dis, il faisait des sports de combat dans les années 80. La muscu à l'époque, fallait se cacher, tu sais, dans les années 80, faire de la muscu, fallait pas le dire parce que c'était véhiculé de plein d'images fausses. Et il m'a vraiment communiqué ce goût pour cette appétence pour le sport en général, pour la culture physique quel que soit le sport. Il m'a fait lire des bouquins, Sport et Vie, enfin tous ces trucs là, les bouquins de Demeyez dont je te parlais. Donc voilà, c'est plutôt ces gens là, c'est des gens qui selon le parcours de vie m'ont inspiré. J'ai toujours eu besoin moi d'avoir des gens qui m'inspirent. J'ai du mal à discuter avec quelqu'un, enfin tout du moins à essayer d'apprendre de quelque chose de quelqu'un, d'aller loin dans un sujet si cette personne-là, elle m'inspire pas en fait. Voilà, je sais pas si c'est très ça t'aide, mais voilà, okay. C'est l'idée.
Est-ce que tu as lu un livre récemment que tu as envie de recommander, qui t'a marqué, qui t'a plu spécialement?
Alors des livres alors récemment je dirais qu'un bouquin qui est très intéressant alors évidemment il aura ses détracteurs, c'est un bouquin qui s'appelle Sapiens, tu as peut-être entendu parler.
C'est incroyable parce que ce bouquin est cité de plus en plus au fur et à mesure des épisodes.
C'est très intéressant. Ouais. Sapiens c'est très bien, un bouquin qui est génial, peut-être plus parce que Sapiens c'est un peu sur l'histoire, l'évolution humaine, donc Hariri, etc., qui a évolué, qui donne un peu une indication sur pourquoi, qui parle de la révolution cognitive. Donc, on parlait de morphoanatomie. Alors, il ne parle pas de la morphoanatomie au sens propre du terme, mais il parle de l'évolution de la boîte crânienne, la différence entre Néandertal, entre Sapiens, Australopithèque. C'est très, pour quelqu'un qui aime un peu l'évolution de l'homme, c'est fascinant. Honnêtement, c'est fascinant.
Ah oui, complètement.
Ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, je dirais le gène du sport. Clairement, le gène du sport très intéressant parce qu'on passe d'un sport à l'autre, on comprend pourquoi ça performe pas. Enfin, ils essayent de trouver des explications avec des études à la clé, la règle des 10 000 heures qui est valable pour certains et pas pour d'autres. Pourquoi au baseball on est plus fort, l'acuité visuelle, les différences morpho-anatomiques. Ils t'apprennent également parfois que des fois des individus d'Europe du Nord ont certaines similitudes génétiques avec les habitants d'Afrique plus proches qu'avec leurs semblables sur certains aspects et ça c'est incroyable quand tu dis ça aux gens, ils disent c'est pas possible, ils se ressemblent pas sur certains aspects, si. En fait, donc c'est ça qui est incroyable. T'apprends plein de choses sur l'évolution aussi du sport, pourquoi on évolue comme ça. Un bouquin qui est intéressant, peut-être un petit peu rébarbatif pour ceux qui sont pas fans de ça, mais ça s'appelle Le Big Bang des morphotypes. C'était fait par des chercheurs australiens à la fin des années 90-2000 et qu'on reprit un peu le 50 dernières années du 20e siècle et qu'on comparait les formes de corps et on s'est rendu compte qu'il y avait des dominantes. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure, en gros, est-ce que tu as un morphotype, tu es plus fort dans tel sport ou dans tel autre? Eh ben oui, on s'en rend compte que après Fosbury, il y a eu une vraie révolution du sauteur en hauteur. C'était plus la même forme de corps. Parce que Fosbury a révolutionné la forme de corps, la manière de sauter en ayant un centre de gravité haut, parce qu'il y a des longues jambes avec un tronc court. Et du coup, tous les sauteurs qui sont arrivés après, pour exécuter la même technique, il fallait plutôt être comme Dick Fosbury que comme celui d'avant, tu vois. Voilà, le sprint, c'est pareil.
Comment tu dis qu'il s'appelle le bouquin?
Le bouquin, c'est celui-là, c'est le gène du sport avec Dick Fosbury. Celui d'avant, okay, c'est le Big Bang des morphotypes, ou sinon le bouquin s'appelle, je vais te montrer, je fais de la pub,
parce que je le trouve pas.
C'est Anthropométrica. C'est un bouquin qui est très intéressant. Alors il y a plein de données pour tes abonnés, je sais pas si ça va, voilà. Ça c'est un bouquin très intéressant, Anthropométrica, où tu as toutes des données morphologiques en fait. Et eux ils ont parlé,
ceux qui sont sur YouTube, ils verront
Mets-le
un tout petit peu au milieu peut-être. Au milieu de l'écran.
Voilà.
Ça ira. Un tout petit peu plus là.
Kevin Norton, les lecteurs c'est Kevin Norton et Tim Hodges. Je mets si vous voulez voir.
Bon, de toute façon, je le marquais dans les
notes. Alors, faut aimer, en fait, il y a plein d'études scientifiques à l'intérieur, avec des données anthropomorphiques, etc. Ça, c'est très intéressant. Bon, après, faut être attiré par le sujet, parce que bon, c'est en anglais aussi. Et, celui qui a pas envie de se farcir des chiffres, des variables, faut pas acheter ça. C'est très intéressant. Il y a le SAR, dont on a parlé tout à l'heure, donc le bouquin La Réponse, là, avec le système d'activation réticulaire. Très intéressant. Mm-hmm. Après, il y a des bouquins, évidemment, La Méthode de Lavier, de Frédéric de Lavier et de Michael Gundil, qui est un must see, tout du moins, même si les gens sont pas fans en termes de dessin. Must have, must see aussi, pour rien que les visuels, les schémas sont superbes. Donc c'est très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire, je regarde ma bio du coup pour pas te raconter de bêtises. Il y a plein de choses, mais grosso modo c'est des bouquins, c'est les derniers que j'ai lus, c'est ça quoi. C'est facile. Après, je te mets de côté les bouquins avec ses postures et tout, ce sera peut-être pas pour tes auditeurs, ça sera moins glamour pour eux. Mais
le gène du sport, j'ai noté La Réponse aussi. La Réponse.
La Réponse, c'est vraiment bien, c'est facile d'accès et en fait, il te donne des petits conseils pratiques pour justement stimuler ce système. Alors, ça paraît toujours un peu incroyable que ça fonctionne comme ça, mais c'est pourtant très simple d'écrire sur un papier, de te le répéter, de le relire régulièrement tous les jours. En fait, tu te conditionnes. Tu finis, en gros, tu persuades ton cerveau et du coup, il cherche les informations autour de lui pour te mener à ton objectif. Et en fait, c'est ça, quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant et c'est des bouquins.
Beaucoup dans le développement personnel, dans le business, tout ça, il y a tout ce qui est tendance qui tourne autour de écrire ses objectifs.
Voilà, exactement.
Visualiser, je veux dire, mettre les tableaux de, les, comment on appelle ça d'ailleurs, tu sais, un truc board, tu sais,
un paperboard aussi. Paperboard,
ouais.
Ou un, mais je vois ce que tu veux dire. Je connais pas le terme avec le mot board à part paperboard, mais je vois effectivement le.
Où on met plein d'images qu'on a envie et puis ça fait un cadre et puis c'est notre, c'est les objectifs.
Ouais, exactement. Bon. Tout à fait. Pour que tu les aies, encore une fois, on est sur du visuel. C'est
ouais, et puis après, la vraie question, c'est le temps. Mais bon, ça, c'est personnel, mais le temps passé à créer un truc pareil, est-ce que ça serait pas mieux de le passer directement sur l'objectif qu'on a envie d'atteindre? Parce que souvent, tu sais, c'est aussi des stratégies un petit peu de... Je vais passer toute l'après-midi pour faire le board. Bon, passe ton après-midi pour faire ce que t'as vraiment envie de faire, en fait, puisque tu détournes. Mais bon.
Je pense qu'en fait, ça peut faire sens, ce genre de choses, ce paperboard ou cette planification pour quelqu'un qui est perdu, qui a un objectif lointain et qui sait peut-être pas comment y arriver. Du coup, quelque part, en posant ça sur le papier, il va faire une sorte de brainstorming, alors tout seul ou avec des collègues ou des amis. Et ça va donc, du coup, activer, tu vois, il va lancer quelque part ses schémas de pensée, ça va peut-être l'aider à trouver des solutions. Après, t'as des gens, c'est vrai que leur schéma de fonctionnement, ils savent tout de suite à peu près. Nous, on appelle ça des conceptuels. C'est des gens qui ont une vision globale de quelque chose, et après rapidement, ils vont trouver les clés pour y arriver, en fait. Et ces gens-là, c'est vrai que peut-être que parfois, ça leur sera peut-être plus simple. Bon, bah, ils ont l'objectif et ça se fait tout seul. T'as des gens chez qui ils fonctionnent pareil, mais ils l'intellectualisent pas, c'est inné, en fait. T'as des gens, enfin, c'est plus facile. Tout le monde peut le faire, mais il y en a chez qui c'est plus naturel. C'est comme ceux qui en a qui pensent toujours positif, et t'en as d'autres, ils ont besoin de travailler sur eux pour arriver à penser positif. Bon, bah voilà, c'est des schémas de pensée, c'est une histoire de vie, c'est des rencontres, c'est tout un tas de choses qui font ça, quoi. Donc, non, mais c'est très intéressant tout ça.
Où c'est qu'on te retrouve? Si on a envie de suivre un petit peu ce que tu fais, est-ce que t'as un site web, t'as
un
TikTok peut-être?
Alors, moi en tant que professionnel, je suis sur LinkedIn à mon nom, Mathieu Toulza.
LinkedIn, ouais.
Donc ça, sur LinkedIn, pas de problème. Voilà, exactement. Sur Instagram, j'ai le nom de ma société qui s'appelle Sport Posture Conseil, où là, je poste et publie plein de posts dessus. En fait, cette société, je fais un petit peu de pub, mais pour expliquer, on met en place, c'est quelque chose que j'ai créé depuis un an. En fait, c'est un site internet qui permettra à des gens à distance, via l'envoi de certains observables, de faire une analyse motrice et posturale en utilisant les outils que sont la morphoanatomie et les préférences motrices. Donc ça, je l'utilise déjà, je le teste, il est en phase de test, c'est un peu long à sortir, c'est ce que je dis aux gens parce que c'est très complexe à construire, c'est quelque chose qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui, et du coup on est parti d'une page blanche. Je me suis associé avec une kiné et qui est prépa fille aussi, qui s'appelle Anna Yala, et qui est un peu plus discrète. C'est vrai que du coup, c'est plutôt moi la entre guillemets la façade, mais on communique, on échange beaucoup tous les deux sur le sujet. Ça me permet, moi, d'avoir justement sa vision de kiné et de prépa-fi. Et l'idée, c'est justement de proposer à des gens, via l'observable, tout un tas de choses, et notamment de leur donner accès à des choses qu'on n'a pas le temps de faire en cabinet. C'est-à-dire, quand tu vas en consultation, souvent, les gens vont regarder une partie de ta façon de fonctionner, mais ils vont pas regarder tes schémas de fonctionnement quand tu es en train de faire ton sport, quand tu es au quotidien, ou ils ont pas le temps, le médecin n'a pas le temps, même le professionnel de santé, le podo. Moi, quand je dis, par exemple, mes examens cliniques, à moi, ils durent 1h15, 1h30. Il y a peu de podos qui font ça. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que les autres. Ce que je dis pas ça. Hein. Je dis juste que la manière que j'ai, moi, d'utiliser, ce que je fais, me prend du temps. Et du coup, ce temps au cabinet, quand t'es en libéral, c'est pas évident de l'avoir. Tu vois, t'es malheureusement, des fois, t'es aussi soumis à une contrainte de rentabilité. Donc moi, j'ai fait le choix de prendre des consultations plus longues, donc plus coûteuses, mais ça me permet d'utiliser mes outils qui sont les miens. Il y en a d'autres qui travaillent autrement et qui arrivent à faire aussi bien, voire même mieux, mais c'est juste que moi, je fonctionne comme ça. Et du coup, ça, le fait d'avoir cette appétence pour l'AMA et les préférences motrices, bah, j'ai développé ce site qui s'appellera Sport Posture Conseil et qui va sortir, j'espère, prochainement. Donc, on pourra faire des bilans. On pourra également, il y aura des conférences. Je suis en train de mettre en place des formations aussi sur la morphoanatomie annexée aux préférences motrices. Et puis, on pourra également, ceux qui le souhaitent, faire des groupes de travail à 4-5 sportifs quand on fait un bilan et travailler in situ avec eux et les aider à performer au plus vite. Voilà. J'étais un peu long, mais c'était pour expliquer le sujet.
C'est bon, c'est accordé. Super. Écoute, je laisserai les liens, comme d'habitude, dans la description de ton LinkedIn, Instagram, site. Voilà, comme ça, on peut aller, ceux qui sont intéressés par tes projets pourront aller t'ajouter.
Il y a un article aussi, excuse-moi, attends, je te coupe, qui est sorti récemment sur la morphoanatomie dans le dernier Sport et Vie, si ça les intéresse.
Tu me laisseras le lien?
Ouais, bien sûr, c'est le numéro 186 là où justement ça s'appelle le Carnaval des Corps, où j'ai fait quelque chose de synthétique et qui est assez sympa sur l'histoire de l'anthropologie et de l'évolution du genre humain pour arriver après avec des déterminismes et on fait le parallèle notamment avec le basket avec Kevin Durant et LeBron James. Donc on parle essentiellement de Morphoanat, on parle pas de Prefmot, mais on parle de Morphoanat et voilà, et c'est un truc qui peut être sympa pour ceux que ça intéresse, mon sport et vie quoi. Il vient de sortir.
Bon, je laisserai tu me feras parvenir le lien,
ouais,
je le mettrai en bas.
Pas de souci, pas de souci, bien sûr. Ouais, bien sûr.
Une dernière chose à rajouter
bien
ou
sûr,
un message
plaisir.
Que tu as envie de faire passer?
Écoute, c'était un plaisir, j'ai pas vu le temps passer, je suis peut-être, tout le monde te dit ça, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Je te remercie de m'avoir reçu. C'était très sympa de parler de mon sujet. J'adore ça et j'ai pris beaucoup de plaisir à te parler de quelque chose qui me passionne. Et puis c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui répond derrière. Et puis en plus, comme t'es du milieu médical aussi, ça fait sens pour toi. Et c'est très stimulant pour moi que d'échanger avec des gens qui ont une vision large et qui essayent de s'intéresser au sujet. Et moi-même, ça me questionne. Et c'est comme ça que j'avance dans mon projet. Donc un grand grand merci à toi de m'avoir reçu. Et puis je passe un bonjour à tous tes auditeurs et aux copains et amis qui regarderont ça quand ça sortira sur les réseaux. Voilà. C'était vraiment super. J'ai passé un super moment et c'était très riche pour moi, très très plaisant.
Ah ben écoute, top. Moi aussi j'ai trouvé ça super et j'ai bien fait de pas trop me renseigner parce que tu vois ça m'a permis de en profondeur sur les préférences motrices et tout ce dont on a discuté parce que ça a permis de rebondir sur des trucs qui étaient pas forcément évident dès le départ, tu vois.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que les gens ont une vision. Enfin, c'est pas évident de se fixer, d'avoir une idée là-dessus et c'est, je te comprends, je te comprends. Mais je te remercie en tout cas pour ton ouverture d'esprit parce que c'est pas toujours le cas, donc ça fait plaisir.
Voilà. Et puis un interlocuteur qui comprend, qui a vu, qui a ressenti de l'intérieur pourquoi les podcasts sont longs, durent longtemps. On dépasse les 2 heures facilement parce que en fait on parle de plein de choses, on parle dans plein de sujets. Et dès que ça commence à être sur des sujets d'expertise, des sujets un peu de passion, eh ben voilà, ça dure. Et puis il y a plein de choses qui sont intéressantes, plein de choses à retenir. Il y a des, comme d'habitude, je le dis, de temps en temps il y a des petits ventres mous dans les podcasts, des passages qui intéressent moins les gens, mais de manière générale, on aborde tellement plein de thèmes que ce qui fait qu'il y a toujours de quoi s'amuser. En tout cas, moi j'adore ça. Donc merci Mathieu d'être passé sur le podcast et puis d'avoir accepté mon invitation. C'était un super moment. Et puis pour tous ceux qui ont écouté, je crois que il est venu le temps pour moi de non pas de vous dire au revoir d'abord, mais d'abord de vous proposer de partager. De partager ces épisodes, balancez-le à vos amis, à ceux qui sont dans le milieu de la prépa physique, qui sont dans le milieu du sport, partagez sur Instagram aussi la petite capture d'écran comme d'habitude. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque épisode, hein. Il y en a qui le font quasiment à chaque épisode et je les remercie pour ça. Généralement, directement sur Instagram, on discute un petit peu. Si vous avez des feedbacks à me faire, vous pouvez le faire aussi soit sur l'Instagram du podcast qui est Biomécanique Podcast, soit sur l'adresse mail officielle contact@biomecaniquepodcast.com. Et puis la petite note sur Apple Podcast si ça vous a plu, si vous l'avez pas encore fait, si ça fait quelques dizaines d'épisodes que vous écoutez le podcast, que vous trouvez ça cool, ah c'est super, et puis je mettrai une note, je mettrai une évaluation une autre fois, faites-le maintenant s'il vous plaît parce que je vous remercie d'avance, c'est ce qui fait monter un peu dans les charts, c'est ce qui fait récemment on m'a dit qu'on avait découvert le podcast un petit peu par hasard en cherchant des podcasts sport et les évaluations et les notes qui sont mises au préalable aident à être un peu référencés aussi, donc permettent à des gens de découvrir plus facilement le podcast. Voilà, ça c'est pour les arguments. Et puis sinon je vous dis à tous à la semaine prochaine, inscrivez-vous à la newsletter, la lettre biomécanique, c'est en bas, ça fait voilà beaucoup d'appels à l'action, mais c'est pour le bien de tous et de chacun. Merci, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, au revoir,
bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à 2 de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.